Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz, 6, à Caen, sur 106, à Chartres, sur 104.5, à Cherbourg, sur 87.8, au Havre, sur 101.1, au Mans, sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 juillet 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 14, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, même par la chaleur.
Quoi, le menton? Ça va-t-il, Victoria?
Ça va très bien.
C'est bien. Goff?
Bonsoir, Serge de Bekech, je vais de mieux en mieux.
Il a l'air, c'est formidable. Il est en pleine forme, on sent un homme dynamique et sportif. Ce soir, le programme, nous recevons Jean Picolec, éditeur. Bonjour Jean.
Salut Serge.
Nous recevons l'abbé Cellier. Éditeur et prêtre. Je ne connais pas Pico. À la rigueur, il pourrait être druide, mais prêtre, je ne crois pas.
Oh, même pas tellement druide. Mais
non,
c'est
même
vrai
pas.
Que je suis trop paillard pour
le
ça.
Le micro.
Oh, bien que hier, je fus à une conférence où on a voulu m'asseoir à côté de quelqu'un qu'on présente comme un évêque, Gaillot. Je préférais aller à l'autre bout de la salle.
Oh, c'est pas contagieux, ça ne s'attrape pas.
Non, mais je n'aurais pas voulu qu'on me prenne en photo à côté de lui.
Ah, c'est autre chose. Tu aurais été traité comme un gnostique, peut-être.
Oui, puis je tiens à mes arrières.
Bon, nous recevrons ensuite Monsieur François de Chasset, qui est animateur, secrétaire général de l'association Saint-Jacques, qui viendra nous parler d'un sujet intéressant, c'est le rôle du clergé régulier et féminin dans la propagation ou l'entretien de la francophonie au Vietnam.
C'est certainement, les congrégations missionnaires ont beaucoup porté la France. Hein,
mais elle continue en plus.
Elle continue.
Alors, vous verrez, il y a des lettres de bonnes sœurs absolument charmantes qui sont contentes d'apprendre le français, qui est une langue très désirable. Et c'est joli, non? Et puis le docteur Dor, s'il est sage, on lui donnera la parole, peut-être. En deuxième partie, Bernard Anthony, qui animera, dirigera d'ailleurs, sous ma houlette, une émission qu'on appellera le dictionnaire de la réplique, parce qu'on va pas s'embêter à trouver un titre original puisqu'il l'a déjà trouvé. Et ce soir, il aura comme invité Maître Georges-Paul Wagner, avocat, Henri de Condé, Louis de Condé, je sais pas pourquoi j'ai dit Henri d'ailleurs, Louis c'est plus joli, Richard Haddad, éditeur, et Jean-Paul Leperlier, journaliste et écrivain. Le sujet, ça sera 40 ans après la guerre d'Algérie est-elle vraiment finie? Et on peut vraiment se poser la question, et ça bouclera le programme, puisque, au fond, la première intervention, celle de Jean Picolec, va porter sur ce genre de questions. Jean Picolec, c'est un des derniers et des plus récents C'est une des dernières, une des plus récentes victimes des attentats à Felaga.
Sa vitrine,
à Paris.
Oui. Oh, il faut pas dramatiser, tout est relatif. Mais où ils sont trompés s'ils pensaient me faire perdre mon sang-froid. Ils ont été à côté de la plaque. La seule chose qu'ils m'ont fait perdre, c'est 6 heures et un peu d'argent. Pourquoi 6 heures? Parce qu'effectivement, ils ont foutu en l'air la vitrine. La police qui venait constater les dégâts d'une part et les artisans qui ont réparé ces mêmes dégâts ont dit, dis donc, qu'ils ont fallu qu'ils viennent de façon vigoureuse. C'est-à-dire que c'est pas un caillou, c'est pas quelqu'un qui passe avec un marteau qui est tapé. Il a fallu venir la défoncer à coups de masse redoublés. Donc, ensuite, après porter plainte, appeler mon assurance, tout ça, ça m'a pris 6 heures. Et comme bien sûr, ce qui est le cas, je crois, dans toutes les assurances, il y a une franchise. Donc, tous mes frais n'ont pas été payés. Mais il est évident que c'était la vitrine qui était visée. Pourquoi? Parce que j'avais mis une grande affiche où on voit l'ouvrage que Mohamed Benchikou, journaliste algérien, directeur du Matin d'Alger, avait édité chez moi parce qu'en Algérie, il n'avait pas trouvé d'imprimeur, étant donné que les imprimeries sont des imprimeries nationales, et il n'y a que les intellectuels parisiens qui pensent que Bouteflika est un grand intellectuel, magnanime, etc. Oui, on peut éditer, mais comme on n'a pas d'imprimeur, sur quoi on édite? On revient au script des pharaons.
C'est ce que disait Marchais, non?
C'est ce que disait Marchais.
Voilà. Enfin, Marchais, c'est qui?
En Union soviétique, on peut éditer tout ce qu'on veut pourvu qu'on trouve un imprimeur.
Mais donc, n'ayant pas trouvé d'éditeur, d'imprimeur, Bouteflika s'était adressé à un très grand imprimeur français.
Benchikou.
Benchikou, excusez-moi. S'adressait à un grand éditeur français qui est venu me dire que j'allais faire une bonne affaire. Je pense que lui, ça lui évitait une grosse épine du pied. Pourquoi? Parce que comme il exporte beaucoup d'ouvrages, notamment d'ouvrages scolaires en Algérie, il risquait de perdre un gros marché, lui. Donc, j'ai publié cet ouvrage, je suis content, et si j'avais à recommencer, je recommencerais. C'est donc un portrait au couteau, au vitriol de Bouteflika. On dit en gros que Bouteflika est un dictateur et que le roi est nu. Ce qui n'a pas fait plaisir à Bouteflika, parce que Bouteflika a fait une bêtise. Au lieu de se taire, parce qu'au départ j'avais tiré l'ouvrage à 3000 exemplaires, au lieu de se taire, il a su que j'avais exporté 10, je dis bien 2 fois 5, 10 bouquins en Algérie. Mais lui, il croyait que c'était par des milliers et milliers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bloquer tous les...
Je sais comment il compte, hein, ouais. Un, deux, beaucoup. Alors, 10, c'est vraiment...
Et donc, il a intercepté tous les conteneurs de bouquins qui arrivaient en Algérie, il les a vidés pour voir si parmi les bouquins anodins ne se cachait pas mon pamphlet, à ses yeux, que moi j'appelle ma biographie. Et il n'en a pas trouvé, il y en avait 10. Mais il a intercepté, il a arrêté.
Si, chez une anguille dans une botte de foin.
Oui, mais il a arrêté des journalistes, et vous savez très bien. Ouais. Dès qu'on touche le poil d'un journaliste, ils se mettent tous à brailler. Ils ont braillé, et résultat...
Bouche à oreille, pas quel journaliste quand même. Hein.
Le bouche à oreille ou le téléphone arabe, je te laisse le choix, Serge, eh bien, ça a pris de l'ampleur, et l'ouvrage a été donc vendu à 13 500 exemplaires. Ouais. Et... voulant rattraper sa couillonnade, qu'est-ce qu'il a fait Bouteflika? Il a poursuivi pour des dinars qu'avait ou qu'aurait eu Benchikou, l'auteur. Or, je précise que les dinars ne sont pas convertibles, donc c'est à peu près de la valeur des emprunts russes. Et donc, quoi qu'il en soit, il a convoqué au tribunal le 14 juin 2004. Et mon auteur, Mohamed Benchikou, est arrivé un peu décontracté en pensant qu'il aurait une amende. Mais boum! 2 ans de prison ferme. Et à l'audience, il s'est retrouvé à la prison El Arach à Alger. Nous sommes le 14 juin 2004. Et ensuite, Boutef a télécommandé une danseuse du ventre ou assimilée. Mais en plus, elle est impliquée dans le grand scandale que vous connaissez, qui s'appelle le scandale Khalifa. C'est celui qui avait une compagnie aérienne algérienne, Khalifa Airways, qui avait une compagnie de télévision. C'est celui qui... disons, invité grassement, c'est-à-dire qu'il donnait dessous de table des vedettes françaises que vous connaissez au moins de nom, puisqu'il s'agit de Catherine Deneuve d'une part et Gérard Depardieu d'autre part. Donc vous avez entendu. Et cette chanteuse de notoriété nulle de notoriété nulle, mais soutenue par Bouteflika pour différentes raisons, mais je peux pas l'aborder, je veux pas que vous l'abordiez ici parce que vous seriez poursuivi pour atteinte à la vie privée, diffamation, et vous risqueriez d'avoir une plainte comme moi j'ai en ce moment de 100 000 euros. Donc j'avais mis, on revient à ma vitrine.
C'est un peu juste pour la payer, hein.
Donc une grande affiche en demandant, un, la libération de Ben Chikou. Je rappelle qu'il est en prison déjà depuis plus d'un an, 14 mois.
Il est toujours en prison, là, pour...
Il est toujours en prison.
Il est qu'on a trouvé dans sa fouille.
Oui. Et donc, il est en prison jusqu'au 14 juin 2006.
Est-ce qu'il disait, comme la plupart des imbéciles, j'ai confiance dans la justice de mon pays?
Non.
Non, bon, ça va.
Non, non, non. Cet adage n'existe pas.
Je picole que c'est l'affiche de Reporters sans frontières.
Non, c'est une affiche. Non, pas du tout, Patrick. C'est une affiche que j'avais mise au Salon du Livre de Paris, c'est-à-dire que tu l'as pu la voir au mois de mars 2005. C'est une grande affiche où on voit la reproduction de mon livre, où c'est marqué le livre qu'on a voulu, la biographie qu'on a voulu étouffer. Je demande trois choses. Donc plutôt, je signale que l'auteur est en prison depuis le 14 juin 2004. Deuxièmement, qu'on me demande, en tant qu'éditeur, 100 000 euros de dommages et intérêts, et je demandais la libération de l'auteur. Cette affiche est restée donc depuis le mois de mars sur la maison, jusqu'au début mai, c'est-à-dire peu de temps avant le procès. Là, l'affiche est tombée, parce que notre procès était exactement, et c'est pour cette raison que je t'avais demandé de ne pas passer la semaine dernière, Serge, était jeudi dernier, c'est-à-dire il y a 6 jours, et on avait obtenu du Parlement européen, comme quoi ça peut servir, en disant en gros qu'il était inique de nous faire le procès pour nous demander 100 000 euros, tant que l'auteur serait en prison. Résultat, l'audience jeudi dernier, devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, l'audience a été repoussée au 29 juin 2006, c'est-à-dire en gros 15 jours après la libération espérée de notre auteur, de façon à ce que l'auteur, un, puisse se requinquer et surtout puisse me fournir des informations, parce que depuis le départ, je n'ai pas de contact avec l'auteur. Donc, comment puis-je me défendre sans avoir les arguments de l'auteur?
Ça veut dire que c'est Bouteflika qui est reçu à l'Elysée, qui se permet de venir donner des leçons de morale au Parlement européen.
Il est bien accueilli.
Non, bien sûr qu'il a raison. Si
tu
on
sais
peut
comment font les enfants
le faire. Mais oui, évidemment.
Tu leur tapes pas sur la main quand ils mettent la main dans le pot de confiture, ils continuent.
Oui, mais alors, ce type qui est reçu par Chirac, qui est reçu amicalement par Chirac, puisque...
Non, pompeusement.
Pompeusement et amicalement, puisqu'il l'a invité à Brégançon l'année dernière en grand tralala. Il a été le seul reçu à Brégançon, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il se conduit exactement comme un dictateur stalinien. C'est-à-dire, quelqu'un écrit mal sur lui, il le fout en taule.
Oui, matinée de Proche-Orientale.
Vous sauriez dire, Jean Picolec, par quel miracle Reporters sans frontières s'est décidé un an après l'emprisonnement de Ben Chikou à prendre sa défense sous les espèces de cette affiche dont je parlais tout à l'heure?
Oui, alors cette affiche que je trouve d'ailleurs très bien faite, parce que tu fais allusion au journaliste tireur de pompe en disant voilà comment Bouteflika imagine un journaliste en Algérie. Je trouve cette affiche très bien faite, spirituelle et tout. Reporters sans frontières, non, c'était manifesté, mais... L'emprisonnement de Ben Chikou, 2 ans de prison ferme, et il n'est pas le seul journaliste algérien, mais il se trouve que en France, on n'ose pas critiquer depuis 40 ans tout ce qui se passe en Algérie, parce que si tu critiques le pouvoir en Algérie actuellement, tu es un suppôt du colonialisme, tu es la ressucée de l'OS. Donc Patrick, tout le monde s'y lance dans les rangs. Je peux te dire, il y a eu une manifestation devant l'ambassade d'Algérie le 14 juin 2005, où je suis allé. C'était pour le premier anniversaire de l'incarcération de mon auteur. C'était devant l'ambassade d'Algérie, donc, et je peux te dire, j'étais stupéfait, je pensais qu'il y aurait quand même du monde. Il y avait entre 40 et 50 personnes. Il n'y avait pas un seul journaliste connu. Pas un seul journaliste connu. Tu vois, tous ceux qui parlent des droits de l'homme que tu vois sans arrêt en parler, pas un n'était présent.
Genre, je vais t'interrompre une seconde parce qu'on a un coup de fil. Ça n'a rien à voir avec ton histoire, quoique ça vient du Maghreb, puisque ça vient du Maroc. Mais
dommage que ce soit pas Bouteflika.
Ça vient pas de la prison de... Comment elle s'appelle la prison?
El Arache.
Ça vient pas de la prison de El Arache. On va tout de suite demander à mon correspondant d'où ça vient. Allô? Allô? Oui, Marquis.
Bonjour, cher monsieur Péquet,
comment allez-vous? Mais bien, vous n'êtes pas à la prison El Arache, alors?
Non, je suis à la Mamounia.
Oui, c'est un autre genre.
El Arache quand même.
C'est quand même le bourreau de mes thunes. Je vous salue, je salue Victoria, je salue Patrick, je salue tous vos invités. Et je vous envoie une grande pincée de soleil en vous disant que tout ça est bien agréable, mais qu'ils sont quand même mieux chez eux que chez nous. Hein.
Mais pourquoi vous êtes allé là-bas? Vous étiez en manque ou quoi?
Non, c'est parce que je voulais que mes neveux apprennent à faire la différence entre un portable et un couvert à poisson. Et j'ai pensé que la Mamounia, pour ça, ça pourrait peut-être les aider. Donc voilà, je suis avec mes deux neveux, à qui j'ai appris à se tenir à table.
Il paraît que la Mamounia, même les clientèles est arabe.
Oui.
Incroyable. C'est comme Guy Bedos qui avait remarqué que quand on prend l'avion pour aller au Maroc, même le pilote est arabe.
Absolument, mais...
Et là, c'est pareil.
En revanche, dans l'avion qui nous emmenait, on ne parlait que français et anglais. Et ici, à la Mamounia, à part mes neveux et moi, il n'y a personne.
Ah bah dis donc, tranquille.
Non, mais c'est assez inquiétant pour les collègues du pays, quand même. Ouais. Je ne suis pas surpris que le groupe Détinger soit en train de la vendre.
L'avantage, c'est que vous ne risquez pas d'une bombe, parce que ça serait vraiment de l'argent foutu par les fenêtres. Poser une bombe pour trois invités, enfin pour trois clients, ça ne vaut pas le coup.
Non, mais la bombe, c'est nous qui la faisons nous-mêmes. Hein, voilà.
Moi, j'invite mes nièces au restaurant Divin Marquis.
Bah, c'est une très bonne idée. Oui, c'est bien.
Donc, vous revenez quand?
Je serai à Paris vendredi et je serai avec vous pour le bouclage, si vous voulez bien. Moi, ça doit être mardi, je présume.
Oui, c'est mardi. Essayez de nous préparer un petit reportage sur la vie quotidienne à Mamounia, parce que dans la Casbah, c'est moins marrant, mais...
Encore que ça s'améliore. Ça s'améliore. Alors, ça y est, c'est prêt dans ma tête. Je vais essayer de vous faire quelque chose de sympathique.
Il reste un peu de place dans la double page que vous préparez pour le double journal. Un tout petit peu.
Très bien, oui. C'est quand même pas toi qui va me demander de faire un peu long, non?
Non.
Ça serait assez nouveau.
Écoutez, je
vous souhaite une bonne soirée, une bonne émission.
C'est gentil de nous avoir fait respirer un peu cette odeur de dollars qui monte des rives de la Méditerranée.
Oui, mais enfin, il y a le dollar et le jasmin quand même. Hein, et le jasmin.
Profitez bien, à bientôt.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci.
Voilà, ça c'était un autre aspect du Maghreb. Plus sympathique, faut dire, que la prison d'Al-Arache, et je suppose que le directeur de la Mamounia a une meilleure tête que le directeur de l'Algérie. Je suis jamais allé à la Mamounia, c'est pas le marquis qui est riche comme Crésus, il peut se payer ça, mais moi j'ai atterri dans un petit hôtel à...
Marrakech?
Non, pas à Marrakech, à Agadir, très bien. Je raconte l'histoire en deux mots. On était avec toute une bande de copains et on voit prix promotionnel. Alors on tourne, on s'arrête dans l'hôtel et on demande, on était 20 quand même, donc on demande des chambres pour 20 personnes. Et le directeur de l'hôtel nous dit, très content, oui d'accord, on va chercher nos bagages et on arrive. Et quand on revient avec nos bagages, il nous dit, voilà les chambres, etc. Et voilà les tarifs. Et on lui dit, mais vous annoncez des tarifs promotionnels à l'entrée, et c'est pas le tarif promotionnel que vous faites. Il dit, ah non, le tarif promotionnel, ici, c'est réservé aux habitants d'Agadir. Voilà, il n'y a pas de petit profit. Bien, revenons alors au cas de... Le bouquin de Benchikou est quand même... C'est vrai qu'il est accablant. Accablant, absolument. C'est terrifiant ce qu'il écrit sur...
Parce que, plusieurs choses. Premièrement, tout repose en Algérie sur le mythe de la guerre d'Algérie, le plus ancien combattant, etc. Or, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que Bouteflika, il n'a jamais été dans les maquis, que Bouteflika...
Il se faisait appeler le commandant Abdelkader?
Oui. Et que d'ailleurs, à un moment, on l'a envoyé comme chef de maquis, ne riez pas, c'était au Mali. Comme vous savez, la guerre était très intense au Mali. Donc, voilà.
Ça, c'est une question d'orthographe, peut-être. Hein. Tu vas partir dans le maquis, il a compris le Mali, il a foutu le
camp. Un gros malien.
Donc, déjà, première chose, mais ce qui a été son coup de chance, son coup de génie, il a réussi à bien se faire voir par Boumediene, qui était, je vous rappelle, également un grand combattant, puisque c'était le chef d'état-major de l'armée. Algérienne des frontières, c'est-à-dire celles qui ne combattaient pas, celles qui étaient à l'extérieur. Et il a réussi à convaincre Boumediene et il a été l'intermédiaire de Boumediene avec les châtelains, et c'est le mot, d'Aulnois, c'est-à-dire les chefs historiques du FLN qui étaient très très bien traités aux frais de la princesse au château d'Aulnois. Et il a réussi à convaincre Ben Bella, qui était la figure la plus emblématique parmi Boudia, Faït Ahmed, etc., et l'Ashraf, de jouer la carte Boumediene. Et cette carte a permis la mainmise de l'extérieur, c'est-à-dire Boumediene, Ben Bella, contre les autres, et au bout de 3 ans, Ben Bella a été renversé, comme vous le savez, en juin 65, 19 juin 65, par Boumediene, mais Bouteflika est resté et a fait figure de dauphin, tout le temps, parce que il a de la tchatche, il a de l'allant, il est drôle, et il a du bagou. Au mieux, c'est également comme un tapis. Je parle pas du marchand.
Pas un tapis de prière.
Comme Bernard. Et il a du bagou. Et il se croyait être le successeur désigné à la fin des années 70 de Boumediene. Et quand il a été évincé. Il est parti en exil pendant 7-8 ans. En exil ultra doré, puisqu'il vivait dans le Golfe, c'est-à-dire près de Dubaï. Mais c'était. Donc déjà, c'est un faux combattant. C'est un faux démocrate. C'est un baratineur. Mais à un moment, il était ministre des Affaires étrangères. C'est quand même extraordinaire. L'auteur nous raconte qu'il a disparu pendant 3 semaines. Personne ne savait où il était. On ne savait pas s'il était en Amérique latine, s'il était au Japon, s'il était en train de chasser le phoque, ou s'il était en train de cueillir les mangues en Thaïlande.
Il faut écarter l'hypothèse du phoque parce qu'il est marié.
Oui, mais il ne le dit jamais. Il est marié depuis 13 ans et là c'est dans le livre où l'auteur signale la date de mariage, dit où s'est passé le mariage, et c'est quand même extraordinaire que quelqu'un de marié depuis 13 ans cache tout à fait sa vie matrimoniale. D'habitude les gens même quand c'est peut-être un mariage de convenance essayent de le mettre justement en pancarte et Bouteflika a su et a réussi à séduire le personnel politique, c'est-à-dire celui que mon compatriote Borgne appelle l'établissement, le personnel politique et médiatique, et Bouteflika, il n'est pas attaqué. Tu citais tout à l'heure comment il a été reçu l'année dernière, comment il se permet d'insulter la France, le président de la France, il l'avait déjà fait à propos des harkis, il a recommencé à propos de 45, personne ne moufle.
Dans l'Assemblée nationale, quand il a fait le discours, qui était un discours d'injure,
oui.
Il n'y a pas un député qui a eu les cojones de se lever.
Tu veux dire les couilles et d'aller lui foutre une baffe.
Voilà, pour aller lui claquer le beignard.
Ils sont sortis quand même.
Hein?
Il y en a quelques-uns qui sont sortis.
Oui, bah c'est ça.
Mais je parlais tout à l'heure de la manifestation demandant la libération de Mohamed Benchikou. Donc c'était le 14 juin 2005, c'est-à-dire il y a pas tout à fait un mois, devant l'ambassade d'Algérie. Je rappelle qu'il y avait peu de monde, pas de tête connue, et quand je suis arrivé, la manif, je sais plus, c'était quelque chose comme 18h. Ce qui m'a surpris tout de suite, avant de voir le monde, il n'y avait pas le moindre barrage de flics. Je me dis, comment une manif devant une ambassade, toujours il y a la police qui vient voir pour éviter tout débordement, ouais, quelle que soit l'ambassade. Hein, et là, personne. Ça veut dire que la préfecture police, l'ambassade savait qu'il n'y aurait eu que 3 ou 4 clampins sans envergure, dont j'étais d'ailleurs. Et ça prouve que cette incarcération n'a aucun retentissement. Mais qu'est-ce qui peut le faire savoir? Le patron, l'âme d'un des grands hebdos français, qui donne souvent le là par ses réseaux, eh bien il a reçu, au moment où Bouteflika mettait le patron du matin d'Alger au trou, ce grand écrivain, patron de presse très connu, eh bien, recevait la plus grande décoration algérienne. Comment, après, voulez-vous que son hebdo puisse
en parler ? C'est celui dont le nom commence par Jean et finit par Daniel ?
C'est son pseudo.
Ah oui ? Oui, effectivement. Alors, on peut quand même se poser la question des motifs réels de cette connivence de toute la presse branchouille avec ce personnage. Parce que c'est pas une complicité intellectuelle. On voit bien que c'est un primaire. Même s'il est malin, même s'il est rigolo, comme tu le disais tout à l'heure, il prétend qu'il a fait des études de philosophie, ça fait hurler de rire tout le monde. Il a appris ce que voulait dire philosophie, la Paul qui est philosophe.
Je crois qu'il a pas. Je crois que c'est même pas sûr. Je crois qu'il a été jusqu'au bac. Parce qu'il était à Oujda.
Donc, oui, mais il n'a pas eu l'argent pour traverser ensuite.
Ouais. Et donc, c'est vrai, il est fasciné par les gens qui sont qui ont fait des études, qui écrivent, mais peut-être les intellectuels français ne critiquent pas Bouteflika, parce que s'ils critiquaient Bouteflika, il faudrait qu'ils remontent aux causes, et peut-être ils seraient obligés de revenir sur le point de vue favorable qu'ils ont eu sur les pieds rouges. Les pieds rouges qui ont été encensés comme étant les grands libérateurs, ceux qui avaient compris, ceux qui sauvaient l'honneur de la France, qui étaient souillés par tous les affreux, les colonialistes, les impérialistes, les OS, les racistes, etc. En gros, les pieds noirs et ceux qui les ont soutenus dans le combat de l'Algérie française. Donc les pieds rouges, eux, qui étaient le contrepoids. Si on critique Bouteflika, il faut remonter à la genèse de ce mouvement de pensée. Donc on revient et il faut relativiser... le bien fondé du combat des pieds rouges. Et ça, les gens ne sont pas prêts à le faire. Et toutes choses étant égales, tu sais très bien que les gens n'arrivent pas, je parle des intellectuels, n'arrivent pas à accepter de mettre en cause le communisme parce que ils ont tous été fils ou petits-fils de communistes. Et comment des gens peuvent se dire intelligents quand ils affirment il vaut mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron. Oui. Mais nom de Dieu, il faut toujours être du côté d'avoir raison. Et c'est pas parce que... Mais avoir dit ça, tout cela, ça prouve qu'ils sont inutilitivés, qu'ils sont bornés, et tant qu'ils n'auront pas fait leur révolution culturelle et mentale, eh bien, tu auras ces conséquences, ces complicités intellectuelles, idéologiques, de laisser aller.
Oui, il y a probablement encore autre chose, parce que on sait bien que politiquement, par exemple, l'argent qui circule entre l'Algérie et la France, il y a des pertes en ligne qui sont quand même assez considérables, de retour à l'envoyeur. On sait très bien comment ça fonctionne. Enfin, on sait très bien que quand on donne de l'argent à l'Algérie, les responsables algériens mettent le pognon sur leur compte privé, et puis ils rétrocèdent à ceux qui leur ont fait le cadeau en France. Enfin, c'est pareil avec toute l'Afrique.
C'est pour cette raison, Serge, que ce qui serait très important, c'est qu'on puisse faire le procès de Khalifa. Quand je dis procès, ce n'est pas le titre individuel, je veux dire le procès des affaires Khalifa. Ouais. Et comme ça qu'on voit où ces milliards... Comment ces milliards ont été dilapidés et où ces milliards sont partis? Oui, parce qu'il y a eu une vraie banqueroute. Or, je me permets de rappeler deux, trois choses. C'est que l'avocat de Khalifa... qui a fait une faillite retentissante. L'avocat de Khalifa était le frère de Bouteflika, président de la République algérienne. Deuxièmement, Khalifa, je me permets de rappeler, c'est qu'il est exilé politique en Angleterre. Peut-être avec les événements dramatiques qui sont arrivés la semaine dernière, c'est-à-dire les attentats, les morts en Angleterre, peut-être les Anglais seront moins laxistes et peut-être ils accorderont moins facilement l'asile politique, et que donc peut-être Khalifa ne pourra plus se terrer en Angleterre, et que ne pouvant plus se terrer en Angleterre, il faudra qu'il se défende. Parce que là, on l'attaquait pas, il était planqué en Angleterre. Mais si il est obligé de quitter l'Angleterre, il y a un mandat international. Donc, il faudra, comme tout accusé, il se défendra. Et peut-être les dossiers sortiront et ça répondra, peut-être, je ne sais pas, je connais pas la totalité, tant s'en faut, des dossiers. Mais ça répondra peut-être à
ce qui est extraordinaire dans l'affaire Khalifa, c'est que, il y a eu d'ailleurs, on comprend mieux, après ce que tu viens de nous raconter sur Bouteflika et les relations privilégiées qu'il entretien avec la presse française, vous pouvez mettre 3 kilos de guillemets autour, hein. Moi ça me gênera pas, on comprend mieux ce qui s'est passé, on comprend mieux les raisons pour lesquelles les médias ont totalement, enfin pratiquement ignoré l'affaire Khalifa. À une réserve près, d'ailleurs, c'est qu'ils ont, et ça on connaît cette technique quand on a un peu pratiqué la presse depuis quelques années comme votre serviteur, quand on ne peut pas ne pas parler de quelque chose parce que c'est vraiment trop énorme, on focalise sur un événement annexe, subalterne et ridicule. Et là, le grand scandale de l'affaire Khalifa, ça a été qu'il a donné 50 briques à Madame Deneuve et 30 briques à Monsieur Depardieu pour aller faire les guignols dans une réception sur la Côte d'Azur, je ne sais où. Alors ça, ça a été énorme. Tout le monde en a parlé. Il y a eu des photos partout, etc.
La une de l'Express, carrément.
La une de l'Express. Mais tout le reste... tout le fric que ce type a dilapidé, alors qu'il avait été volé à l'évidence, on s'est grugé.
Le peuple algérien.
Il a été volé aux Français. Les Français l'ont donné aux Algériens pour aider les Algériens, pour payer le pétrole qu'on avait trouvé, pour payer le gaz qu'on avait trouvé, pour notamment aider à reconstruire les immeubles qui avaient été détruits par les glissements de terrain et les tremblements de terre. Il a été volé par les autorités algériennes, mis sur des comptes privés, réinvesti chez Khalifa et revolé une deuxième fois. Alors là, on ne sait pas où il est passé, ce fric. Mais on sait sûr qu'il n'a pas été perdu pour tout le monde.
Exactement. Hein, bon. Donc, c'est que, qu'avec
et
le procès
Khalifa... Personne n'en a jamais parlé.
Oui, parce que peut-être, je ne sais pas, là, il ne faudrait pas accuser sans fondement, que peut-être ceux qui pourraient ouvrir les dossiers ont peut-être, peut-être, profité de quelques embruns, quelques retombées de telle ou telle réception ou de tel séjour agréable dans cette villa pharaonique qui paraît que c'était la plus belle villa de la Côte d'Azur ou près de Cannes, où il a fait des réceptions, paraît-il, exceptionnelles. Ouais. Hollywood, à côté, était enfoncé au moment du festival du cinéma de Cannes.
Il faut quand même rappeler qu'on s'interroge souvent sur les motivations profondes de tel ou tel personnage dans telle ou telle affaire, mais la motivation essentielle, c'est le fric. Moi, je me souviens que quand Ceaușescu était au pouvoir en Roumanie, on était très étonnés de voir la presse de la presse bourgeoise parisienne, la grande presse nationale bourgeoise quotidienne, ce qu'il faut que je précise encore plus ma pensée, ne jamais écrire une seule lettre, une seule ligne défavorable à Ceaușescu. Bon, et puis un beau jour, on a appris que l'un des patrons de ce représentant quotidien de la grande presse bourgeoise passait toutes ses vacances en Roumanie, dans des hôtels somptueux, et se faisait graisser la patte. Bon, alors là, on comprend bien évidemment que le gars n'a pas du tout intérêt à ce que ces journalistes aillent savonner la planche du camarade Ceaușescu. Et lui, il trouvait que Ceaușescu était un type parfaitement recommandable.
Et vous avez remarqué que le Parti communiste français est devenu russophobe d'un seul coup, du jour au lendemain ?
Oui, ben c'est le jour probablement où le fric s'est arrêté de couler. Non ?
Il semble qu'il y ait une coïncidence. Ouais. Vous savez, Serge, l'Afrique, dans son ensemble, on le signale dans le Libre Journal, a reçu depuis les années 60 500 milliards de dollars. Et ça fait, d'après certains économistes, environ 5 plans Marshall. Le plan Marshall, qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a permis de remonter l'Europe, qui était peut-être un peu plus compliquée à remonter que l'Afrique. 5 plans Marshall. Et aujourd'hui, ce que vous dites, ce que nous disons en ce moment, c'est tellement flagrant que même le canard enchaîné, qui est pourtant assez tiers-mondain et tiers-mondiste, en fait un dessin aujourd'hui que j'ai sous les yeux, 54 milliards d'euros le G8 a cédé à la douce pression des mondialistes alternatifs là en Écosse et a donc attribué 54 milliards d'euros de plus pour l'Afrique. Et le canard nous montre deux dirigeants noirs obèses qui disent ça fait combien de villas avec piscine sur la Côte d'Azur, et l'autre dit je ne sais pas, moi je compte en voiture de sport. Et les peuples africains continuent à vivre dans une misère
sordide. Qu'est-ce qu'ils feraient d'une voiture de sport les Africains, ils n'ont même pas de route pour rouler dessus. Alors,
tellement sordide qu'ils rappliquent ici par millions, et voilà que la boucle est bouclée.
Alors, cette histoire du bouquin sur Bouteflika, est-ce qu'il y a eu des résistances, des pressions de la part, de pressions directes, indirectes, douces, cachées, de la part de l'autorité en France ou pas du tout ?
Pas du tout. J'ai publié ce bouquin, je rappelle, 3000 exemplaires. Sans doute, j'aurais pas fait un corps supérieur parce que personne ne connaissait réellement Bouteflika en France. En plus, c'est un problème qui ne passionne pas les lecteurs français. Mais Bouteflika, comme j'ai dit, a fait ce pas de clair en attaquant l'ouvrage, en essayant de fouiller partout, parce qu'il croyait que j'inondais l'Algérie en édition clandestine, ce qui est faux. Donc aucun, je précise, aucune tentative de pression directe ou indirecte. Caché, personne ne m'a même dit « Ah, tu as fait une connerie d'avoir publié ce bouquin, tu es imprudent.
» Ça serait quand même une révélation. Le gars qui serait allé voir Picot en disant « Picot, t'es imprudent. » Ah bon, merci du renseignement.
Non, tu vois, personne, j'ai pas la moindre pression. J'ai eu quelques articles sur le livre, mais très peu. C'est-à-dire que je trouvais quand même que ce livre écrit par un des journalistes vedettes algériens sur son président de la République et qui racontait la situation de l'Algérie méritait quelque intérêt, même pour le critiquer. Pas du tout. On a mis plutôt ce bouquin sur le boisseau et j'ai mis l'affiche, comme je l'avais dit tout à l'heure, au moment du Salon des Livres de Paris sur mon stand. Elle était un format d'affiche, donc ça se voyait, et je l'ai remis, et elle était, et elle y est encore, parce que bien sûr, même déchirée, déchiquetée, je l'ai remise tout de suite, donc elle a été absente le temps qu'on refasse la visite de Trine.
Et alors finalement, ce bouquin s'est vendu à 13 500 exemplaires. Oui. Tu as fait des retirages?
J'en ai refait, je crois que j'ai fait 2 retirages. Tu vois, de tête, comme je te dis, c'est 3 000, je crois qu'ensuite j'ai dû faire 5 000. Et après, on a dû faire 6 000. Ouais, comme ça, de tête, donc on a dû faire 2 retirages.
Il faut dire que moi, quand je l'ai reçu, j'ai abordé à reculons. Parce que, comme tu dis, le Bouteflika, s'il y a quelqu'un au monde dont je me contrefous, c'est bien lui. Alors là, je m'intéressais pas du tout. Bon, j'avais bien idée de ce que c'était en gros. Et je me sentais pas tenu d'en savoir plus. Mais quand j'ai mis le nez dedans, j'ai trouvé que c'était un bouquin formidable, mais formidable.
Absolument. Et en plus, l'auteur écrit très bien. Tu parlais de la francophonie.
Très bien.
Il écrit en français, il écrit très très bien.
Mais ce qui est énorme quand même, c'est que, en plus, il est très courageux. Parce que écrire un bouquin comme ça, en vivant en Algérie, en restant en Algérie, je ne sais pas si on pourrait écrire la même chose sur Chirac en France. On pourrait sans doute le faire, mais je ne sais pas si on trouverait un journaliste qui aurait le courage de le faire. Parce que c'est énorme ce qu'il y a dedans.
Oui.
C'est un tissu de révélation, mais il y a même des choses dans le bouquin que je n'oserais pas dire à la radio, parce que je pense que la radio risquerait d'être poursuivie.
Oui, exactement. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, parce que je ne tiens pas à ce que vous soyez, vous entrez poursuivie. Moi, j'ai eu 100 000 euros.
Ouais.
Or, pour ceux qui savent que je suis à la tête d'un trust, d'un compte Zern, et que je suis un ticoun, donc 100 000 euros, vous savez tous que c'est banal pour moi.
Oui, bien sûr.
Il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui sont en train de téléphoner pour demander si le livre est encore disponible.
Ah, tout à fait. Et tu sais,
ils commandent à leur libraire, tout simplement.
Ah oui, commandent à leur libraire, ils peuvent aussi commander aux éditions Picolette, mais je préfère qu'ils passent par leur libraire, à chacun leur métier, mais si par hasard le libraire n'y est pas, ils peuvent écrire ou téléphoner au 47 rue Auguste Lançon, Paris 13e, c'est l'édition Picolette.
On peut donner l'adresse parce que c'est déjà cassé, donc c'est pas la peine.
Pendant tout l'été, sauf pendant une journée et demie, il y aura du monde dès 8h30 jusqu'à en gros 8h du soir, donc c'est pas difficile, donc ils peuvent le trouver. Non, il n'est pas du tout interdit. Et tu sais bien, Patrick, qu'il est plus facile pour un éditeur d'imprimer des livres que des billets de banque, alors qu'il m'en achète. 47 rue Auguste Lançon, Paris 13e. Et le téléphone est le 01 45 89 73 04.
On le redonnera dans une minute.
Et en plus, je précise, tous ceux qui ont un bouquin Picolègue, il y a toujours en début et l'adresse, le numéro de téléphone, le fax et le courriel. Donc ils ne peuvent pas me manquer s'ils veulent.
Moi, j'indique aux auditeurs qui s'apprêtent à téléphoner ou à commander le livre, qu'il a largement inspiré, on peut le dire, Serge, hein, les 4 pages que nous publions justement sur les rapports entre Jacques Chirac et M. Bouteflika dans le numéro 355 du Libre Journal qui vient de paraître.
Ah oui, je ne me suis pas gêné pour prendre un bel chicou ce qu'il me proposait, c'est-à-dire des informations intéressantes. Bon, ça n'est pas du tout une copie du livre, il y a des éléments du bouquin qui éclairent.
Je vous rassure, je ne vous poursuivrai pas en plagiat. Et ni en contrefaçon, premièrement, je ne suis pas chicanier. Dans certains cas, je fends la tête des gens, je ne les amène pas au tribunal.
Il y a quand même, ça fait deux jolis coups d'édition récemment. Là. Enfin, récemment, bon, il y a eu le fameux bouquin sur
Ben Laden,
qui a été un coup d'édition assez extraordinaire.
Parce que le livre est paru quelques jours après les attentats du 11 septembre.
Le lendemain matin.
Le lendemain.
Parce que,
on n'a jamais vu un bouquin écrit aussi vite. Quoi.
Non, alors, c'est parce que je traîne. Vous savez tous que je suis feignant, que je... L'ouvrage, d'ailleurs, si vous regardez le catalogue du Salon du Livre de Paris, mars 2001, vous voyez qu'il est annoncé comme nouveauté pour sortir. Et puis, mars 2001, je suis en retard. Et sur ce, passe un de mes amis qui avait un poste important, et un de nos amis qui avait un poste important à Paris Match, Frédéric Musso. Et qu'est-ce que fait un journaliste quand il voit un éditeur? Qu'est-ce que tu prépares? Alors je lui dis, écoute, là, je sors un bouquin sur Ben Laden, et je crois que c'est un bon bouquin, il y a plein de révélations. Je précise qu'on avait traduit, quand je dis « on », c'est comme César fait le pont, hein, c'était pas moi, 12 000 pages d'arabe et d'ourdou. Ourdou, c'est une langue du Pakistan. Avec ce qui vient de se passer à Londres, vous voyez pourquoi l'Ourdou.
Et l'Afghanistan aussi.
Oui, un petit peu. Et donc on avait traduit ça, et j'en parle à Frédéric Musso. Frédéric Musso, qui est un pied noir de Kabylie, connaissait Ben Laden. Et comme moi, une fois de plus, je tirais un peu la langue financièrement, je lui dis, écoute, j'en suis l'avocat, il me dit, ben écoute, ça peut m'intéresser, tu m'envoies les épreuves. On est fin mars, comme je vous l'ai dit, et j'étais plus à 15 jours près, puisque j'étais en retard, j'avais loupé mon salon du livre, donc bon, je pouvais prendre le train suivant. Je lui envoie, et au bout de 15 jours, c'est-à-dire en gros le 15 avril, il n'a pas réagi, je lui rappelle, il me dit, bon, ben écoute, je regarde. Et quelques jours après, il me dit, moi ça m'intéresse, je le prends, mais je vais demander quand même à quelqu'un de Paris Match, qui est spécialiste des problèmes, ce qu'il en pense. Le temps que l'autre le lit, ça prend encore 10 jours, on est en gros le 20 avril, Patrick. 20 avril, il m'appelle, et il me dit, bah c'est d'accord, on prend, j'étais content, parce que c'était pour faire le document de Paris Match.
On prend, oui, c'est-à-dire pour faire un document.
C'était le document de Paris Match, et faire un document de Paris Match, comme vous le savez, au maximum, il y en a un par semaine. Et bon, donc c'était pas rien. En plus, je crois que qu'il m'achetait, je vous le dis de tête, mais c'est de l'ordre de grandeur, 35 ou 40 000 francs. Parce que les euros n'existaient pas, donc c'est en francs. 35 ou 40 000 francs. Et pour moi, 35 et 40 000 francs, c'était pas epsilon. Donc, je dis d'accord. Mais il me rappelle, on est à peu près le 20 avril, il me rappelle, il me dit, oui, mais tu comprends, Jean, mais nous, on a un programme, tu crois pas que je vais te le publier la semaine prochaine, je te le publie que dans 3 semaines à moi. Donc, en gros, on est le 20 mai. Bon, j'étais content, c'est encore limite pour vendre un tel livre. Et puis là, Paris Match me met une clause en me disant, oui, d'accord, tout est bien, document, mais seulement on veut l'exclusivité pendant 15 jours, donc on veut pas que vous le mettiez en vente pendant 15 jours après la sortie, parce que c'est normal, il l'avait payé, c'était en pré-publication, il voulait l'exclusivité, ce qui est légitime. Mais, et dans l'édition, on ne met pas un ouvrage tous les jours, il y a des offices, c'est-à-dire, en gros, selon notre diffuseur, il y en a entre 2 et 3 par mois, et mon prochain office tombait le 10 juin. Pour un ouvrage comme ça, sur le terrorisme, Ben Laden, à l'époque, personne ne le connaissait, c'était pas une bonne période. J'ai téléphoné à l'auteur, Roland Jacquard, que je connaissais depuis presque 30 ans, puisque je dois préciser qu'il travaillait sur l'ouvrage sur Ben Laden depuis 98. Pourquoi 98? C'est au moment où il y a eu, en août, les deux attentats de Dar es Salaam d'une part et de Nairobi d'autre part, et c'est la première fois où on voyait ces grands attentats islamistes, et le nom de Ben Laden commençait à filtrer.
Roland Jacquard, président de l'Observatoire international du terrorisme, hein, il faut le rappeler.
Exactement, et qui avait déjà publié chez moi d'autres bouquins, notamment quelques années auparavant, l'ouvrage sur le terroriste Carlos. Mm-hmm. Hein. Donc je reviens, donc l'ouvrage, il y avait travaillé depuis 3 ans, puisque pour traduire les 12 000 pages d'arabe, vous comprenez, ça ne se fait pas en 10 minutes. Et je l'appelle, et je lui dis, écoute, parce que les auteurs, ils sont toujours pressés, ils veulent que leur bouquin sorte le lendemain matin. Et tous les auteurs, c'est un des traits de caractère des auteurs. J'appelle Roland, et je lui dis, écoute Roland, là c'est une mauvaise période pour mettre le bouquin. Je pense qu'il vaut mieux le sortir à la rentrée, c'est-à-dire début septembre. Début septembre. Et je vous ai expliqué, c'est parce que d'abord j'étais en retard. Puis après il y a eu ces négociations avec Paris Match. Puis après c'était une période creuse pour ce type de bouquin. C'est-à-dire entre le 15 juin ou 10 juin et le 10 septembre, il fallait pas sortir ce type de bouquin. Et Roland Jacquard, au lieu de se plaindre, il m'a dit, écoute Jean, c'est toi l'éditeur, c'est toi qui décides. Donc de ce côté-là, je n'ai pas eu la pression de l'auteur en me disant, il faut le sortir. Et qu'est-ce qui peut prouver que je vous raconte pas de blagues? Un, vous regardez, pour ceux qui le veulent, l'annuaire du Salon du Livre de Paris 2001, vous voyez qu'il est annoncé pour sortir mars 2001. Et qu'est-ce qui fait dire qu'on l'a ensuite continué à le mettre à jour? C'est-à-dire que les dernières informations dans l'ouvrage de Ben Laden, vous voyez qu'on part d'une arrestation à Malaga qui date de 20 juillet 2001. C'est-à-dire que les dernières informations, on les a tenues au courant.
Deux mois avant la sortie du bouquin.
Et, donc, oui, mais j'avais déjà donné 10, 15, 20 exemplaires à des journalistes. D'autre part, les journalistes avaient vu le document annoncé dans Paris Match. Et il se trouve que le 11 septembre, vers 3h de l'après-midi, je reçois des tas, quand je dis des tas, 4-5 coups de téléphone de journalistes qui me disent « Tu as vu ?» Non, j'ai pas de télé. Tu as vu. Donc je suis sorti, comme les éditions sont au rez-de-chaussée, et je suis garé juste à côté, puisque je suis garé sur une zone de livraison, et j'ai 3 mètres à faire, j'ai mis la radio et j'ai appris, 3h de l'après-midi, ce qui se passait. Et là... J'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire, et à 5h de l'après-midi on a foncé alors que les couvertures étaient déjà prêtes. J'ai été voir quelqu'un que vous connaissez qui a très bien réagi, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric Chatillon, qui est le patron des Riwal. On a foncé et on a changé simplement sur la couverture pour comprendre le 11 septembre, et là on était 5h de l'après-midi ou 6h de l'après-midi, le 11 septembre, pour comprendre le 11 septembre. Et en dernière page je dis, pendant que New York et Washington sont en flammes ou en feu, le monde entier est assommé. Et je rajoute simplement un peu plus loin, puisque je parle du World Trade Center, il y avait déjà eu un premier attentat, et je mets une nouvelle fois. C'est tout, qui peut prouver qu'on l'a fait dans l'après-midi du 11 septembre, et le bouquin dès le lendemain, puisqu'on a pu être imprimé grâce à Cyril Chevrillon, qui est patron notamment des Cameron. Donc l'ouvrage...
Les Cameron, c'est des machines imprimées à gros tirage, hein, 50 000 exemplaires à l'heure, quelque chose comme ça.
Exactement, en 2-3 heures, 40 000 exemplaires, bon, tu vois, mais c'est de cet ordre-là. Puis, donc ça pouvait être tiré, ça pouvait être fait, parce qu'en même temps, il broche, tu vois, il n'y a pas la cassure en train de imprimé, puis après le brochet, c'est tout ensemble. Et Cameron, comme quoi c'est un bon souvenir également pour les légionnaires.
Cameron, c'est bien en plus. Oui, c'est ça, c'est apporté un gros cierge à Sainte-Anne.
Hein? J'ai attendu l'année suivante, parce que Sainte-Anne, je te, me permets de te dire, en tant que breton, que c'est le 26 juillet. Les bretons connaissent toujours deux dates, le 19 mai pour la Sainte-Yves et le 26 juillet pour la Sainte-Anne.
J'espère, Serge de Bekech, que nos auditeurs apprécient le privilège qu'ils viennent d'avoir d'entendre un éditeur. C'est une engeance tellement secrète et tellement chafouine.
Quelqu'un,
il n'y a que Jean Picolec, nature comme il est, et imprudent comme il est, pour nous expliquer, comme si on y était, la jeunesse d'un des plus beaucoup éditoriaux de ces dernières années.
Alors, c'est aussi peut-être parce que, d'une part, Serge et toi, Patrick, je vous connais, je vous apprécie. Tu comprends ? C'est peut-être ma manière de vous dire merci de m'accueillir.
Ben, c'est très gentil. J'espère que ça convaincra nos auditeurs de lire ton autre beaucoup d'édition, qui est ce livre sur Bouteflika, dont le titre précis est...
Bouteflika, une imposture algérienne.
Une imposture algérienne. Alors, c'est vraiment un bouquin excellent, excellentissime et courageux.
Merci. Mais alors, si tu pouvais m'accorder 20 secondes, je voudrais dire, puisqu'on parle de l'Algérie, un bouquin que j'ai eu plaisir à faire, qui est resté sous le boisseau pendant 40 ans, c'est le bouquin de Jean-Paul Angelelli.
Formidable bouquin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Une guerre au couteau, et Jean-Paul Angelelli, je me permets de préciser que c'est un pied noir qui est appelé faire en 61-62 faire la guerre d'Algérie en tant qu'appelé, qui se trouve dans le bled et qui raconte tout ce qu'il fait. Alors, où commence la torture, où termine la bousculade, en tous les cas, il dit. De même, il parle des corvées de bois, et parce qu'il parle aussi comment il trouve ses copains coupés ou étranglés ou étripés. C'est-à-dire que c'est un document brut où on voit bien sûr où bat le cœur de Jean-Paul Angelelli. On ne peut pas demander à un pied noir qui se bat pour défendre sa terre, autrement de se battre avec son cerveau, ses tripes et son cœur. Et c'est un ouvrage engagé, ce qu'il raconte, mais il a une sérénité. Jamais il est méprisant vis-à-vis de ses ennemis, jamais il les insulte. Il est là pour les détruire, pour les tuer, et non pas uniquement pour les injurier.
Et il le raconte avec une grande fraîcheur, parce que vous disiez, il est resté sous le boisseau, c'est-à-dire...
Pendant 40 ans.
Il l'a écrit, c'est-à-dire qu'il l'a écrit au lendemain des événements, et il n'a pas pu le publier, il n'a pas trop insisté, et vous venez de le publier maintenant, et c'est donc un livre qui a une grande fraîcheur, y compris du point de vue de la combativité, quoi, de la...
Oui, parce que des éditeurs craignaient qu'il y eut des réactions, et notamment qu'il y eut des procès pour différentes raisons, et en particulier comme il parlait de séances de secours de secousses, de tabassage ou de torture, selon comment on se situe. Il n'en fait pas du tout l'apologie, mais il dit, voilà, pour faire, on avait besoin de faire parler nos ennemis pour essayer de sauver la vie de dizaines d'autres. Eh bien, il fallait les tabasser, leur faire des tas de choses jusqu'à ce qu'ils parlent. Parce que mon objectif, à moi, c'était de les faire parler pour sauver la vie d'autres. C'était pas du tout par sadisme.
Oui, c'est un vrai témoignage, et en plus d'une écriture.
Et c'est pour ça que je voulais, puisqu'on parlait de l'Algérie, c'est pour ça que je voulais donner ce coup de chapeau. C'est toujours délicat pour un éditeur de dire, de faire de la promo comme ça pour son auteur. Mais là, je l'ai fait, et quoi, j'en ai parlé, c'était pas du tout en tant que marchand de sous pour essayer de vendre 3 exemplaires de plus. C'était pour donner un coup de chapeau à Jean-Paul Angéli.
Qui est un confrère de Rivarol, tout à fait charmant. Je l'ai rencontré dans ce studio, d'ailleurs, dans une émission de notre ami Sérapion. Serge, est-ce que c'est le moment de vaincre votre modestie et de répondre à d'autres auditeurs qui doivent s'interroger sur votre sort devant la 17e chambre, précisément par coïncidence pour islamophobie?
On peut dire un mot, oui. On peut dire effectivement que grâce à Maître Valéran de Saint-Just qui a trouvé l'angle parfait pour régler cette question, l'imputation de diffamation raciale qui était portée contre moi est tombée avec un bruit sec.
Et mais c'était pas jeudi dernier?
C'était jeudi dernier.
Et c'était à la même audience où moi je passais après parce que j'étais. Donc j'étais dans la salle où j'ai entendu que ton cas était liquidé assez rapidement.
Mais j'ai été donc relaxé. Et je m'en félicite, et j'en félicite surtout Valéran qui a très bien manœuvré, qui a fait c'était un truc absolument au couteau, au rasoir, si j'ose dire. Pas rasoir du tout, mais au rasoir. Pas un mot de trop, mais ils étaient habillés pour l'hiver, j'ai trouvé que c'était très bien. Et ça m'a permis, comme la parole est libre devant le tribunal, de dire exactement ce que je pensais de la question. Et c'était bien agréable de pouvoir dire aux gens du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme pour la paix communiste et à l'avocat de la Ligue des droits de l'homme franc-maçon, ce que je pensais exactement d'elle. Et voilà, ils n'ont pas été déçus, ils en ont eu pour leur argent, d'autant que ça m'a rien coûté, il fallait en profiter.
Cette avocate, j'étais sur place, et cette avocate vous a répondu sur un tel ton qu'elle a immédiatement indisposé le tribunal.
C'était drôle, d'ailleurs.
Lui a ordonné s'adresser à elle. Ouais. Je voudrais que vous me permettiez d'ajouter un seul mot à l'adresse cette fois de nos auditeurs pour leur dire que on a vraiment frôlé la destruction là, puisque la destruction du journal, puisqu'il y avait plusieurs précédents qui nous faisaient craindre une amende d'un tel montant qu'on risquait d'être détruit. Alors je voudrais dire à ceux de nos auditeurs, et j'en rencontre beaucoup, qui me disent perpétuellement qu'ils sont sur le point de s'abonner, comme celui qui a téléphoné il y a 15 jours, vous en souvenez peut-être, pour insinuer que je me mettais dans la poche la remise de 10% que j'accorde. Bon, alors, ce gars-là, d'ailleurs, ce Versaillais, je l'ai retrouvé à Versailles, il est venu tout penaud me dire qu'il avait des remords et prendre un abonnement plein pot, donc j'ai pas pu me mettre quoi que ce soit dans la poche. Alors donc, je voudrais leur dire à ces gens qui sont sur le point de s'abonner ou de se réabonner, que dans ces circonstances-là, on avait quand même affaire au parquet. C'est-à-dire que qui, dans une démarche totalitaire, a dit « Ah bon, invasion, le président Chirac a parlé d'invasion, le président Mitterrand a parlé de seuil de tolérance, première nouvelle. » Et donc, on était vraiment en grand danger de périr. Alors, on a survécu, donc on n'a pas besoin de faire la manche, d'ailleurs c'est interdit, mais on a besoin que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent comprennent que c'est leur liberté d'expression qu'on a défendue contre le parquet dans ces circonstances-là, et qu'il faut donc envoyer 110 euros... Alors, de SDB, 4 places France List, 75-010 Paris. En échange, on recevra un excellent journal 3 fois par mois.
Il fallait préciser quand même qu'en échange, on recevra le journal, parce qu'autrement, on est loin de l'intérêt de l'opération. Des questions pour
un auditeur nous précise que quand Bouteflika a parlé à l'Assemblée nationale, le député qui a quitté la salle est Philippe Devilliers.
Oui.
Et puis, on vous demande, peut-on écrire un bouquin analogue sur Chirac? Mais il en existe un, c'est celui de Bernard Billot, intitulé « D'un Chirac à l'autre ».
C'est pas tout à fait quand même la même chose. Hein. Le bouquin de Billot est excellent, tout le monde n'est pas de cet avis. D'ailleurs, moi je l'ai trouvé remarquable, bien écrit, intelligent et tout. Mais c'est quand même un livre qui a été écrit par quelqu'un qui garde une espèce de sentiment de pas d'amitié, mais de tendresse pour Chirac. Alors que Benchikou, on peut difficilement dire que son livre
il
est...
Il avait tourné la page, complètement.
Oui, je crois qu'il a vraiment il a tourné la page. Le bouquin de Billot est formidable.
Mais Billot, il parle notamment de Mgr Lefebvre et Mgr Cobourget de façon fort intéressante, puisque jusqu'à la mort de Mgr Lefebvre, il le recevait une fois par an.
Puisque vous avez pris la parole, Monsieur l'abbé, ce dont je me félicite, vous avez reconnu la voix de l'abbé Cellier, qui est accompagné de son garde du corps, d'ailleurs, qui est dans le studio. Vous n'avez pas vu cette espèce de grosse masse, enfin de grande masse charnue qui s'appelle Jean-Baptiste Chaumet, qui est là. Il surveille, si je suis agressif avec vous, il me tape après.
Voilà, c'est ça.
Et quand il a raison. Il est beaucoup plus jeune et beaucoup plus fort que moi, j'angoisse. Oui, puisque vous avez pris la parole, c'est le 100e anniversaire, enfin, de la naissance de...
Voilà, c'est le 100e anniversaire, donc la fraternité organise un certain nombre de manifestations. D'abord, dans les diverses, ce qu'on appelle des doyennés, donc en province, il y a un certain nombre de journées, dans chaque province, il y a une journée pour Mgr Lefebvre, et ensuite, il y aura trois grandes manifestations autour de Mgr Lefebvre et de son centenaire, donc, puisqu'il est né en 1905. Il y en a quatre. Les journées de la tradition, le 1er de octobre à Villepreux, après la semaine de Renaissance catholique, où M. Beketch sera présent. Le 12 et 13 novembre à Tourcoing, sur le lieu de naissance de Mgr Lefebvre. Alors là, ça sera un colloque sur l'enracinement dans le nord de Mgr Lefebvre, et il y aura notamment une visite guidée de l'ensemble des lieux où a vécu, où a été né, où a été sacré, ordonné, etc. Mgr Lefebvre.
Le nord de Dakar.
C'est carrément le nord de Dakar. Voilà, le corps Tourcoing, c'est quand même très...
Et puis, il y aura un colloque scientifique à Toulouse, n'est-ce pas, organisé par des historiens, donc le 25 et 26 novembre, et enfin, le 10 décembre, à le centre Chalieu-Galliera à Paris 5, l'Institut universitaire Saint-Pilice fera également son colloque annuel autour de la pensée de Mgr Lefebvre. Donc nous avons un certain nombre de...
Et vous allez publier un numéro de fidélité
Nous allons publier, donc le numéro de septembre sera consacré à Mgr Lefebvre, ainsi que l'agenda 2006 sera consacré à Mgr Lefebvre, avec des pensées, des textes et des photos de Mgr Lefebvre.
Le fameux agenda de Clovis.
Voilà, l'agenda Clovis, qui est annuel en plus.
Oui, c'est intéressant parce que
aussi extraordinaire.
On peut noter des rendez-vous dessus, enfin c'est exactement comme un agenda.
Voilà, c'est un genre d'agenda qui paraît tous les ans, voilà. Et qui est en plus adapté à l'année.
Oui, c'est bien, ça change tout le temps. Des fois, prenez le 13 avril, par exemple, d'un coup c'est un vendredi, d'un coup c'est un mercredi, c'est assez varié. C'est bien.
D'une année sur l'autre, ça change.
Celui-là, le numéro qui vient de paraître, il est consacré.
Je vais essayer de récupérer des mains de M. Picolet qui s'y plonge avec passion. Ça lui fait beaucoup de bien. Donc, c'est un numéro. Je lui laisserai.
Mon voisin est diabolique.
Voilà.
On peut dire, je ne sais pas si c'est un compliment qui lui va droit au cœur.
Voilà.
En tous les cas, il essaye de me diaboliser.
Voilà.
Même de me démoniser.
Voilà. Alors, donc, c'est le Fidéliter 166 de juillet 2005. Nous avons fait un dossier sur malheureusement un sujet extrêmement réel et extrêmement actuel, qui est la pression sociale vers le mal, avec bien sûr une photo de couverture sur la guépride qui déferle tous les ans et même plus d'une fois par an dans nos villages et villes.
Photo très pudique, il faut le dire,
et
largement masquée par le titre.
Effectivement, on n'a pas voulu que ça soit. Mais enfin, il y a cette espèce de déferlement dans la rue.
Donc la jonction entre fidélitaire et têtu n'est pas encore réalisée.
Non, pas absolument. Donc, il y a plusieurs articles fort intéressants de Martin Pelletier sur la presse féminine, tout le rôle corrupteur de la presse féminine qui n'est pas négligeable dans l'histoire de la démentalité.
Tout le mal vient de là.
Voilà. L'abbé Bonneterre sur, effectivement, toute la destruction de l'éducation et la disparition du père dans la famille. Également, Maître Wagner sur le divan.
La disparition du père dans la famille, ils veulent des familles de deux pères maintenant.
Voilà,
ça va disparaître.
Voilà. Et donc, Maître Wagner, ce qu'on pourrait appeler le divorce express, n'est-ce pas? Beaucoup de choses fort intéressantes. Et puis également, un long article sur une question doctrinale, mais pas négligeable. Peut-on et doit-on, dans le combat politique et dans le combat de la cité, s'unir même à des non-catholiques, voire à des non-chrétiens, lorsqu'il y a péril en la demeure pour défendre des valeurs naturelles? Et en l'occurrence, c'est sur la question de l'homophilie, donc la campagne contre la promotion du mariage gay et contre la répression des paroles dites homophobes. faut-il, dans certains cas, s'allier avec des gens qui ne sont pas forcément de nos idées, mais qui veulent au moins défendre sur ce point-là des choses intéressantes. Il y a d'autres articles dans ce, donc, toujours dans ce fidélitaire de juillet. Il y a donc notamment un article très intéressant sur une procession extraordinaire, une procession du Saint-Sacrement à Toulouse, avec un char en plein milieu de Toulouse, un char portant le Saint-Sacrement tout à fait extraordinaire qu'ils ont fait réaliser. Et quand même, la réaction de l'évêché. Donc ils font une procession du Saint-Sacrement, le jour de la fête du Saint-Sacrement, selon ce qui a été demandé par Jean-Paul II en cette année de l'Eucharistie, puisque Jean-Paul II a demandé explicitement qu'en cette année de l'Eucharistie, il y ait, on fasse vivre et revivre la procession du Saint-Sacrement dans les rues de la ville, il le dit explicitement. Et voilà la réaction de l'évêché de Toulouse. Nous sommes dans une société pluriculturelle et plurireligieuse, il faut respecter les non-croyants, les autres religions. Et donc l'évêché dit, nous sommes choqués par cette,
quelle
par cette
procession. Qui a...
Voilà, alors c'est le secrétaire de l'évêque, c'est le... Attendez, je vais vous dire ça. Il s'appelle... Comment il s'appelle, ce plouc il s'appelle... Zut, excusez-moi.
Ce plouc, c'est un mot désagréable pour un breton, parce que voilà. Plouc veut dire en breton paysan.
Voilà. Bon, là, c'est donc c'est le père Maurice...
C'est ça veut rien dire en breton, on peut voilà.
le père Maurice Borrier, donc, qui est le secrétaire de l'évêché, et c'est une communication officielle de l'évêché, dans la dépêche de Toulouse, bien sûr.
Notez le nom. Hein.
Et voilà. Quand la cathédrale de Toulouse, il y a 3 ou 4 ans, a été souillé d'une façon qu'on ne peut pas décrire à la radio, il a réagi avec non moins d'énergie.
Voilà ça.
Ah bon ? J'ai pas le souvenir, c'est voilà. Peut-être pas là. Hein. Voilà.
Et puis alors, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des je ne sais pas si vous connaissez l'église de Tours que nous avons à Tours, qui est une église magnifique au centre de Tours.
Absolument magnifique, voilà. L'église de la Contre-Réforme qui est très très belle.
Voilà, et donc ils poursuivent la rénovation, et ils ont fait des vitraux, un vitrail de Saint-Pidis, et également un vitrail de Mgr Lefebvre.
Ah, c'est bien.
Voilà, donc c'est amusant, et alors il y a toutes les explications, comment se fait un vitrail, etc. Et puis le rappel, les règles canoniques, qui fait qu'on a le droit de faire des vitraux pour les gens qui ne sont pas canonisés, mais il faut évidemment pas les vénérer de façon particulière, etc. Des lectures pour les enfants et les adolescents, et puis un bel article sur Botrel par notre ami François Brignot qui a fait.
On n'en sort pas. Hein,
voilà, c'est toute la Bretagne rassemblée, donc qui est un grand chansonnier de vraiment classique de France, si mes souvenirs sont exacts, puisque mon camarade est là et pour me faire bien voir, je crois que nos amis du Chœur Montjoie Saint-Denis ont fait un disque des chansons de Fleur de Lys de Botrel, donc à acheter dans les plus brefs délais.
Pour nous, excusez-nous, on ne dit pas chansonnier qui fait un peu côté un peu léger. Ça fait Montmartre, on dit le barde.
Voilà, le barde celtique, le barde breton. Oui. Donc je remets
bardé de celtitude.
Voilà, je remets à monsieur Picolec le fidélitaire de juillet 2005, numéro 166, pression sociale vers le mal. Comme ça, il va le lire ce soir.
Ça m'embête un peu que vous ayez fait ça parce que c'était le sujet de mon édito du numéro prochain du Libre Journal.
Alors, bon, ben vous inspirez, des excellents articles. Enfin,
donc je précise que mal s'écrit MAL. Hein. Voilà,
oui.
Il y a quand même l'article de l'abbé Bonnetaire, n'est-ce pas, qui commence ainsi, c'est là, il dit... Si mon lecteur me permet ce jeu de mots, j'expliquerai un des aspects de la pression sociale vers le mal par la pression sociale contre le mal.
Ah, c'est pas mal, voilà. Oui, c'est très amusant. À ce propos, j'ai rencontré un ami tout à l'heure qui était indigné par la Gay Pride, en disant, vous vous rendez compte, des gosses de 4 ans, 5 ans qui voient ce spectacle, et puis on leur en parle à l'école. Moi, mon gosse est rentré de l'école, et il me dit, papa, qu'est-ce que c'est qu'un robot sexuel? C'est humiliant, non? 5 ans. Alors, son père l'a dit, tu seras 5 quand tu seras plus grand.
Alors nous avons sorti, nous continuons notre réédition des Belles Histoires Belleville sous la collection Chemin de Lumière. Donc nous venons de sortir Notre-Dame de Fatima. Nous l'avons sorti tout simplement parce que la fraternité organise un pèlerinage international à la fin du mois d'août à Fatima en réparation, puisque vous savez qu'ils sont en train de construire un centre qui serait un centre interreligieux en faveur de l'islam parce que Fatima serait la fille du prophète, alors que ce n'est pas vrai, très probablement.
Mais c'est pas de chance, c'est au contraire une sarrasine qui s'est convertie.
Voilà, c'est dans la réalité. Voilà, donc Notre-Dame de Fatima dans la collection Chemin de Lumière. Donc
ça complète ma collection.
Voilà. Mais... Et puis je voudrais annoncer, donc tout ça bien sûr se trouve à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement, mais je voudrais annoncer que demain donc 14 juillet, qui est donc l'anniversaire de la mort de Catlino, comme tout le monde le sait, qui est mort le 14 juillet 1793. Voilà, donc le 14 juillet, c'est pour ça que la France a cette fête fériée, parce que c'est la mort de Catelino. Mais la librairie France Livre sera ouverte, et ce sera la deuxième journée catholique et royale, où il y aura parmi les auteurs notamment Jean Raspail, Anne Bernay, Jean-Sylve de Ventavon. Daniel Raffard de Brienne et le chœur de Chouan. Le chœur des chœurs de Chouan, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu compliqué. Bon, qui viendront chanter. Et en plus, il fait chaud, c'est une très bonne chose, les rafraîchissements sont offerts par la librairie.
Il est d'une générosité qu'il perdra. Hein.
Voilà, venez donc à la deuxième journée catholique et royale à la librairie France Livre, demain 14 juillet, donc c'est ouvert de 10h à 19h, mais je pense que les signataires seront dans l'après-midi, donc de 15h à 19h. Jean Raspail, Anne Bernay, Jean-Sylve de Ventavon, Daniel Raffard de Brienne et Tutti Quanti, le chœur des chœurs de Chouan et les rafraîchissements offerts gratuitement, je précise.
Ah, mais c'est les meilleurs.
Voilà.
Gratis pro deo.
Voilà, et donc c'est à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, près évidemment du Petit Pont et de Notre-Dame. Le numéro de téléphone, si on veut se renseigner, c'est le 01 43 25 36 67. Le 01 43 25 36 67. Et on pourra bien sûr acheter le Fidélitaire 166 de juillet 2005 et le Notre-Dame de Fatima, le nouveau chemin de lumière qui vient de sortir.
Et le métro, c'est Saint-Michel qui nous est en sa Sainte-Garde.
Voilà.
Il vient bien.
Il y a une formation.
Et puis le collègue qui ricane, mais moi je commence à être influencé.
Voilà. Merci beaucoup.
Dès qu'il aura lu le Fidélitaire, là c'est la conversion.
Ouais. Garanti. Mais il est converti plus loin, vous êtes un breton, vous savez, voilà. Il n'a pas le choix de toute façon.
Celui qui peut commencer, eh bien, puisque vous parliez de François Brignot. François Brignot, non seulement il est mon compatriote, mais il est également mon concitoyen, puisque nous sommes concarnois l'un et l'autre, et que quand il était gamin et qu'il usait ses fonds de culotte à Concarneau, c'était à côté de mon oncle maternel, et quant à son père qui était instite, ça a été l'instite de mon père. Et donc François pense que ma cause est... Oui.
Il y a donc deux mécréants.
Est-ce qu'il t'a rendu l'oreille que son père avait arrachée à ton père?
Non, mais il faudra le faire.
Il y a donc deux mécréants en Bretagne, mais il faut convenir que c'est quand même pas les plus mauvais non plus.
Je voudrais remercier Miège qui nous a envoyé un dessin superbe dont je regrette simplement qu'on ne puisse pas le montrer au micro. Enfin, je le montre quand même, mais ça vous apportera pas grand-chose. C'est un barbu qui brandit d'une part le Coran et d'autre part une bombe et qui dit la théorie et la pratique. Et il dessine bien, Miège, j'aime bien. Hein. Vous avez, c'est vous qui publiez des dessins. Non, j'ai vu. Non, c'est dans la nef. Il y a des dessins d'un dénommé Barnabé.
Oui.
Et c'est marrant parce qu'il dessine un peu comme Ignace.
Ah bon? J'ai pas vraiment remarqué ça.
Non, mais pas remarqué.
Ça doit être un plagiat une fois de plus.
Ah bah, je pense.
Une fois de plus.
C'est Barnabé.
Voilà.
Monsieur Chassé, bonsoir.
Bonsoir. Alors,
Monsieur Chassé, vous êtes. Vous représentez l'association Saint-Jacques et vous avez passé une annonce. Hein, l'association Saint-Jacques recherche des marraines et des parrains pour prendre en charge des cours de français au Vietnam de religieuses postulantes et de pré-séminaristes et correspondre avec eux. Donc vous cherchez donc des gens qui vont aider des jeunes religieux et des jeunes séminaristes vietnamiens à acquérir ou à reconquérir la langue française. Ça m'a donné envie de vous recevoir pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, à quoi ça correspond, à quel besoin, à quel programme.
Merci. Le sujet est important, il faut attaquer dans le vif tout de suite. Hein. Il concerne en premier lieu, bien sûr, les catholiques et les francophones. Vous savez que le français est en perte de vitesse au Vietnam. Le moment est crucial, notamment face à l'anglais. Nous pouvons agir auprès des religieuses et des pré-séminaristes, mais il faut les aider. Chez un nombre important de religieuses, l'écho est très favorable. Et si en plus certaines personnes
excusez-moi de vous couper, elles ont quels sont les âges de ces jeunes religieuses et jeunes prêtres qui sont vraiment
les religieuses. Il faut savoir que les religieuses, elles sont soit assez jeunes, 18-20 ans, c'est-à-dire les postulantes,
ouais.
Soit ce sont des sœurs qui ont professé leur vœu, hein, et qui vont avoir 22-23 ans. Les sœurs, les novices, elles, elles, ne peuvent pas faire d'études, ne peuvent plus faire d'études parce qu'elles sont trop occupées.
Alors, je vous pose cette question parce que c'est assez surprenant de découvrir que dans un pays comme le Vietnam, qui est encore un pays communiste, sauf erreur de ma part, il continue à y avoir des vocations qui s'expriment et qui peuvent se manifester au moins avec les apparences de la liberté.
Oui, oui, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé en 2004, l'année dernière, c'est que le Parti communiste du Vietnam a autorisé la parution d'un annuaire qui concerne toute la catholicité du Vietnam. C'est assez extraordinaire. Donc c'est un livre qui est en vente libre au Vietnam.
C'est énorme,
bien sûr, il est en vietnamien. Il coûte 120 000 dong. Ça fait à peu près 6 euros et quelques. Il y a 1000 pages.
Bon, l'éditeur, t'as vu ce qu'ils font pour 6 pages. Euros?
Oui.
Mais seulement tu sais combien, quels sont le taux des droits d'auteur?
Zéro.
Non, un coup de sifflet, oui. Bref.
Alors, mais il faut, si je peux intervenir, là, le catholicisme est quelque chose d'énorme au Vietnam. Les églises sont pleines à craquer, les monastères sont pleins à craquer, les séminaires sont pleins à craquer. Je crois qu'il y a une explosion catholique au Vietnam actuellement, que le Parti communiste est dans l'incapacité de contrôler et de faire vraiment barrage.
À l'exemple du grand frère chinois, c'est le communisme de marché maintenant. Et pourquoi pas, puisque nous avons le libéralisme totalitaire.
Voilà.
Donc, grâce à cet annuaire, tout est clair maintenant. Avant, on ne savait pas ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, parce que, et à commencer par les Vietnamiens, qui sont complètement dans la vie et perturbés en permanence. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, comment il faut le faire, et il faut qu'ils se raccrochent au secrétaire du parti du moindre village. Hein. Maintenant, il y a presque une trouille innée chez tout le monde. Et grâce à cette autorisation, il y a au moins un certain nombre de choses qui sont clair. On a même le trombinoscope des évêques.
Ah oui, en couleur.
En couleur. En couleur. On a toute la liste des prêtres. In extenso, il n'y a plus de prêtres cachés. Par diocèse, toute la liste des prêtres. Toute la liste des paroisses, si vous avez besoin de faire une recherche. Toute la liste des paroisses, numérotée.
Est-ce qu'il y a des prêtres étrangers?
Non. Interdit, ça c'est interdit. Non, le dernier évêque, c'était Monseigneur Seitz, qui a été évacué en 1975.
Oui, pas de prêtre dernier... étranger. Je dis pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu la question de Jean-Pierre Collec, pas de prêtre étranger.
Non, c'est interdit. Hein. Bon, il y en a quelques-uns. La fraternité a fait une mission il y a quelques années, je crois. Et je suppose qu'elle était en civil.
Oui, c'était effectivement, on n'est pas arrivé avec tambour et trompette.
Alors, le clergé chinois ne doit pas faire allégeance à l'État comme c'est le indo-chinois doit pas faire allégeance à l'État comme c'est le cas en Chine.
Ah, si, bien sûr.
Il n'y a pas d'église patriotique.
Oui, c'était ma question.
Voilà,
oui.
Il n'y a pas d'église patriotique au Vietnam, il n'y a que l'église catholique. Il faut faire allégeance au régime.
Oui.
C'est deux choses différentes. Mais oui. Il n'y a pas une pression pour appartenir à une église qui est schismatique.
Parce qu'à Shanghai, vous avez entendu parler, monsieur l'abbé, de cette histoire terrible que ça a fait quand le jeune évêque coadjuteur simplement de Shanghai a laissé entendre qu'il faisait allégeance à Rome en même temps qu'à l'État. Donc les deux églises, la clandestine et la patriotique, sont en grand émoi, uniquement à cause de cette déclaration équivoque. Mais c'est pas la même chose donc en Indochine.
Bon, enfin, en tout cas, là, on a une église
Vietnam,
qui est formidablement vivante.
Oui. Alors, justement, je vais faire une petite réflexion tout de suite, parce que j'avais passé une petite annonce dans un journal traditionnel, et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en disant « Ah ben oui, on voudrait bien parrainer des religieuses, mais est-ce qu'elles sont traditionnalistes ?» Et là, j'aurais répondu, j'ai pris ma belle plume, puis j'aurais répondu « Que voulez-vous, au Vietnam, là, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule église. Alors là, on peut pas, il n'y a pas d'étrangers, il y a une seule église qui est très monolithique. Et, ouais. Ben, bon, le seul qui a ouvert sa gueule, donc c'est le père Lee qui a été condamné il y a quelques années à 10 ans. Et le motif est d'ailleurs été valait son pesant de, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-bas. Hein,
de banane.
De
Nem. Oui, de Nem, son pesant de Nem. Il a été condamné à je ne sais plus si c'était 5 ans ou... Enfin, pour abus De la liberté démocratique.
C'est tellement actuel.
La démocratie, oui, ça se consomme, mais il ne faut pas en abuser. Hein.
Oui, c'est ça le problème.
Sachez apprécier, consommer avec modération.
Une subtilité très orientale qu'on souhaiterait à Bouteflika ou même à Chirac.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc, pour, je reviens tout de suite à ce que vous m'avez dit. Il y a, bon, avec les chiffres, un billet en tête, il y a 10 000 religieuses au Vietnam. Quand même extraordinaire. Mais alors, 10 000 religieuses, professes, qui ont prononcé leurs vœux. Ça veut dire que derrière, il y en a à peu près 10 000 encore. 10 000, comme je disais, juvénistes, qui sont l'équivalent des genre, je ne sais plus le terme. Bon, après il y a les
postulants novices, les novices, professes, grosso modo, voilà.
Les postulantes, pardon.
Postulantes, ouais, c'est ouais. Ça.
Alors, juvénistes, postulantes, etc. Et novices. Voilà. Donc, il y a à peu près, il y a la relève derrière. Il faut absolument qu'il y ait des personnes qui se dévouent pour rechercher des parrains, des marraines.
Pardonnez-moi de vous poser une question un peu idiote, mais à quoi ça sert qu'ils parlent le français ? Quelle est l'utilité pour eux, ou pour elles, puisqu'il s'agit de religieuses, mais il s'agit de jeunes prêtres aussi, et quel est l'intérêt pour nous ?
Je vais dire juste un petit mot partiel. Ça commence tout comme ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes une association, nous travaillons avec le Vietnam, et l'association espère continuer son œuvre pendant longtemps et veut préparer ses futures correspondantes. Voilà. Déjà. Après, il y a des tas de raisons. Il faut absolument, il y a 10 000 sœurs. Elles vont pas rester toutes au même niveau. Souvent, elles sont issues des milieux pauvres. Il faut absolument qu'elles évoluent suivant leurs possibilités. Et sur 10 000, vous vous rendez compte le nombre de possibilités qu'il peut y avoir, hein. Donc, il faut qu'elles fassent des études. Elles vont faire des études de médecine, de langue, etc. Donc, il faut qu'elles, les langues, pourquoi pas, et même au contraire, le français. Il faut que nous, on les aide pour le français.
Vous voulez dire quelque chose, monsieur?
Tout simplement, je pense que la littérature en vietnamien, que ça soit la littérature scientifique et encore plus la littérature religieuse, est extrêmement réduite, et donc l'accès au français et l'accès à cette littérature qui leur permet de se former. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est quelque chose de très important d'avoir. Et en matière théologique, il faut savoir que l'anglais, c'est pas une langue théologique, hein, c'est une langue pratique, mais pas théologique, et que la production catholique est en français, en italien. C'est les deux grandes langues. Bah, je ne parle pas du latin, mais c'est en français et en italien. Donc c'est là qu'on peut avoir accès au plus mauvais aussi. Hein. Il y a de mauvaises littératures théologiques, mais aussi à la bonne littérature théologique.
Sur le plan pratique, ça se passe comment? Alors si on veut parrainer, imaginez que moi, par exemple, pris d'un coup de folie, je décide de parrainer un séminariste ou une religieuse.
Le coût, nous, on demande uniquement le remboursement des cours, c'est 30 euros par trimestre, donc ça fait 120 euros par an. Il faut s'adresser à l'association Saint-Jacques, 202 rue Lecourbe, 75015.
Donc on fait par exemple un prélèvement mensuel de 10 euros?
Non, en général, la moitié des gens payent par trimestre 30 euros. Et puis, mais c'est très très souple. Hein, je fais un rappel hein, gentiment quand les gens ne sont pas à jour. Mais souvent, les personnes nous envoient directement les 120 euros pour l'année. C'est une association qui n'a pas de frais. Elle fonctionne sans frais. Elle n'a pas de cotisation. Donc, l'argent que vous versez va intégralement et directement là-bas pour les cours de français. Et bien sûr, elle procure un reçu fiscal.
Donc, une fois qu'on a envoyé cet argent sert à quoi ? Il sert à acheter des livres, à payer des professeurs, à...
Alors c'est soit des cours qui sont soit elles s'inscrivent à des cours d'organisation comme le Centre culturel français qui dépend de l'ambassade, qui paraît-il comme de nombreux centres n'est pas à la hauteur et qui au lieu de nous aider nous a mis des bâtons dans les roues alors que nous étions clients qu'on payait rubis sur l'ongle. Donc nous continuons pour les niveaux élevés, sinon nous avons créé un cours avec l'évêché, et à ce moment-là, on paye le professeur, on paye les copies, on paye les livres, on paye les cassettes, tout ça y compris dans le prix. Maintenant, depuis le début de l'année et grâce à l'annuaire, on a pris contact avec des congrégations religieuses et on travaille directement avec les congrégations religieuses pour leur faire pour qu'elles organisent elles-mêmes des cours couvents. Donc, on a des cours homogènes et de 20, par exemple, 20 de, il y a même deux classes, ça fait deux classes de 20 dominicaines à Biennoa, deux classes de 30 Amande de la Croix à Quinone, etc., etc.
Et alors, vous avez des lettres, vous m'avez fait lire tout à l'heure des lettres absolument charmantes de religieuses. Il y en a une qui dit si vous pensez pouvoir nous aider, je vous en serai bien reconnaissante et mes jeunes sœurs auraient la joie de connaître le français et les beautés de la France et de la langue française. J'espère que vos offres portent d'excellents fruits, non seulement sur le plan culturel, mais encore sur le plan spirituel, car la connaissance de la langue française donne la clé pour entrer dans les trésors spirituels accumulés dans les bibliothèques des différents pays. Merci de vous occuper de nous. Alors ça, quand même, c'est une cistercienne. On peut imaginer qu'elle a quand même une pratique un peu prolongée du français.
Quand les étrangers viennent en France, les étrangers catholiques, et qui visitent tous nos lieux d'apparition, tous nos... Pour eux qui viennent d'Amérique, de Vietnam, etc., c'est extraordinaire. Ils nous disent quelle chance vous avez dans tous ces lieux riches de l'histoire du patrimoine catholique, quoi.
Oui, mais celles qui écrivent en général sont des supérieures, sont des sœurs âgées.
Il y a une lettre.
Attention, si on veut que les sœurs écrivent la même chose dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est maintenant qu'il faut agir.
Voilà une dominicaine du Sacré-Cœur qui écrit « La joie de la maisonnée ». Nous avons déjà commencé le cours de français de 3 séances à la semaine. Pourtant, il y a un petit changement désirable. Au lieu de 20 postulantes pour un cours, comme je vous ai proposé, il y en a 34 parce que tout le monde s'est inscrit au cours. Nous ne pouvons pas en refuser personne. Toute la maisonnée en est contente et enthousiaste. Si vous êtes là, vous partagerez aussi notre joie, comme je vous l'ai dit, que nous sommes prêts à collaborer avec vous pour que la belle langue française se propage largement.
Donc, en plus, il y a une demande. Il y a une demande.
Je suis heureuse, dit une bénédictine, de vous dire combien nous sommes contentes d'apprendre que votre spécialité est d'aider les religieuses étudiantes à apprendre le français. Nous ne sommes pas des étudiantes, mais nous voulons bien apprendre une langue étrangère, surtout le français, car nous l'avons déjà appris un peu autrefois. Je vais demander à Jean Picolec de laisser sa place au docteur d'or. Voilà. Monsieur l'abbé nous quitte. Il veut pas être dans la même salle que le docteur d'or et je le comprends. Cet homme n'est pas très.
Non, mais comme disait monsieur l'abbé, c'est très important. La langue française est très importante pour lire, pour les religieuses, pour se cultiver dans le domaine religieux. J'ai eu l'exemple avec samedi où il y a un prêtre vietnamien qui est retourné au Vietnam et qui est passé à la maison pour faire le plein de livres parce que m'a dit nous avons besoin de livres. En français, la littérature religieuse est assez pauvre au Vietnam. Et il faut absolument, on a besoin du français.
Alors, vous étiez déjà venu, il me semble. C'est pas ces religieuses qui faisaient des petites cartes postales,
oui, c'est ça,
peintes
c'est ça.
À la main, qui étaient des pures merveilles. Est-ce qu'elles vont commencer là?
Non. Le problème, c'est qu'on a eu on a eu deux problèmes. On a eu un problème en amont, un problème en aval. Le problème en amont, c'est la fabrication, c'est-à-dire qu'il fallait suivre ça d'assez près pour avoir les cartes exactement qu'on voulait, et les sœurs ne l'ont pas fait. Il fallait choisir les modèles qui pouvaient se vendre en France. Donc on a eu un problème de cet ordre-là. Et de l'autre côté, en aval, on a eu un problème en commercialisation, c'est que il faut faire de la publicité, etc.
Et
nous, on a des tas de choses à faire. S'il y a des gens de Radio Courtoisie qui sont branchés là-dessus, ils peuvent nous aider. Il y a une place à prendre. On peut nous aider aussi pour la médecine. S'il y a des professeurs de français ou même des Français tout simplement qui peuvent donner quelques petits cours en passant, en faisant leur voyage, s'ils pouvaient consacrer quelques jours pour dispenser des cours de français parlé, ce serait l'idéal pour compléter les cours sur place.
Alors donnez-nous l'adresse, rappelez-nous l'adresse et le numéro de téléphone où on peut vous appeler. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de propositions parce que c'est une très
Et puis je pense que vous rappellerez notre adresse dans votre journal. C'est l'association Saint-Jacques, 202 rue Le Courbe, 75015, Paris.
202 Saint-Jacques, 202 rue Le Courbe, 75015, Paris.
Téléphone 01 48 42 50 26. Un petit mot spécial pour puisque vous avez un émetteur qui est sur Chartres. Qui connaît aujourd'hui les sœurs de Saint-Paul de Chartres? Est-ce que vous les connaissez ?
Non, pas du tout. Non, moi je les connais pas.
Les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Quand je pose la question, les gens tombent des nues. Il y en a encore quelques spécimens qui cachent à Chartres même.
J'en ai même vu tout récemment.
Oui, bon.
Oui, elles ne savent pas encore si elles vont accompagner le nouvel évêque, enfin, à Tours.
Eh bien, il faut savoir qu'il y en a 1000 au Vietnam.
Ah bon ?
Il y en a 1000 sœurs professes. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y en a presque autant, je crois qu'il y a à peu près 900 juvénistes. Je fais un appel spécial parce que je me suis démené, mais j'ai pas réussi à faire parrainer toutes ces sœurs de Saint-Paul de Chartres. Je fais un appel spécial aux gens de Chartres qui fassent ce petit lien historique, ce petit clin d'œil pour les sœurs, pour toutes ces sœurs. On en a 15 actuellement, on en aura d'autres à parrainer. S'il y a des médecins aussi qui veulent faire des missions pour nous au Vietnam, des professeurs de français, etc. Il y a des tas de choses.
Entrez en contact avec l'association Saint-Jacques, 202 rue Le Courbe, 75 015 Paris, le téléphone 01 48 42 50 26. Vous reviendrez nous voir dans quelques temps. On fera un petit point pour savoir quels sont les fruits de cette.
On a à peu près 200 religieuses à parrainer. Parce qu'il faut dire qu'on était à 50 en décembre, et au jour d'aujourd'hui, on en a à peu près 250.
Merci, M. Voilà. Chausset. À bientôt.
Merci.
Docteur, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Voilà, toujours beaucoup de choses, évidemment. Voilà que nous avons bientôt, mais ce sera à la rentrée, le 17 septembre, c'est un samedi, à 14h30, nous avons une manifestation. Alors, c'est un peu particulier, c'est toujours, comme d'habitude, une prière. Ce sera sur le parvis de Notre-Dame, et à côté de la statue de Charlemagne. Donc là, nous sommes au centre même de la France, au cœur même de la France, tout près de l'archevêque et pas loin de du centre civil, la préfecture de police, enfin tout le monde connaît, qui ne connaît pas ce parvis de Notre-Dame. Donc nous irons, je pense, plusieurs fois de suite, tous les mois à peu près. Voilà, alors ne manquez pas ça. Je voulais vous dire que le paysage est en train de changer, à mon avis.
C'est la question que j'avais posée.
Au sujet de l'avortement.
On a l'impression que ça change.
Ça change. Par exemple, il y a eu une manifestation le 23 janvier, vous vous souvenez ? Il y avait eu, 9000 participants, quelque chose comme ça. Il y a eu une manifestation le 11 juin. Ils étaient combien ? 7 000, je ne sais pas exactement, des jeunes. Alors là, on peut peut-être discuter, mais il y avait quand même un avantage. Bon, ils n'affichaient pas trop la couleur catholique, mais quand même, il y avait à l'arrivée Jérôme Lejeune, il y avait Magnificat, enfin des choses qui sont vraiment catholiques. Bon, c'est un petit peu un reproche que je leur fais, et puis un peu trop de rock, tout ça. Mais ceci étant dit, ils sont assez gays, gentils, festifs. Donc ça, c'est quelque chose. Et le même jour, d'ailleurs, on avait nous aussi une manifestation plus petite, je dois dire. Mais c'est vrai que nous la faisons de façon fréquente. Le 15 octobre, il y a la Renaissance catholique qui va faire quelque chose. Donc chaque année, Renaissance catholique fait sa marche qui est tout à fait remarquable. Nous allons dans une dizaine de villes. Nous répétons, par exemple, à Dijon, nous y allons tous les mois. Les amis sont là-bas tous les mois. À Nantes, c'est tous les deux mois. Et à Nantes, ça marche très bien. Ils sont 80. Nous avons maintenant une extension à Marseille, etc. Enfin bref, je ne dirais pas que tout est merveilleux, bien entendu. Nous distribuons des tracts tous les vendredis pratiquement à Paris, en région parisienne, parce que ça va même jusqu'à Poissy, on distribue devant les lycées. Il y a, je pense, un peu de tous les côtés, un renouveau. On s'est associé avec pour plaider pour le nom. Il y avait cinq associations qui se sont réunies pour le nom, puisque cette constitution était maçonnique de A à Z, pour qu'ils ne le sauraient pas, pour qu'ils ne s'en doutaient pas. Nous, j'avais fait un petit article dans SOS Touki Actualité, nous avons un petit bulletin qui était, je pense, assez significatif, qui était celui-ci, le titre. Ni Dieu ni tout petit. Vous auriez beau chercher dans cette charte qui était pourtant, il y avait 464 articles. C'était vraiment très long. Eh bien, vous ne trouviez ni
Dieu ni naître.
Ni Dieu ni naître. Voilà. Eh oui, mon Dieu, on enlève une petite jambe. Ça revient d'ailleurs au même. Ni Dieu ni maître, c'était tout à fait ça. Et d'ailleurs, ils ne sont pas cités, ils sont-ils nommés ? Et c'est très curieux parce que vous savez comme moi, mais je me rappelle de ces articles. Article 262, toute personne a droit à la vie, n'est-ce pas ?
Ouais.
Mais évidemment pas les plus petits, puisqu'on en tue. Alors là, vous le savez sans doute.
Ce ne sont pas des personnes.
C'est une chose que je voudrais dire absolument, celle-là. C'est que nous avons 2 à 3 000 morts par jour en France. Je n'invente rien, je ne connais pas le chiffre exact, personne ne le connaît exactement. La contraception est de plus en plus souvent abortive, et c'est comme ça qu'elle marche.
Dans l'Aude,
est toujours
j'ai reçu aujourd'hui l'information, dans l'Aude,
oui.
Je crois,
oui.
Sur 3 naissances, France, enfin sur 3 enfants conçus, 2 avortements.
Ah, je pense
on est en bout d'émission.
Je pense que c'est plus que ça. Mais alors,
je suis obligé de vous couper la parole. Ah bon. On a fini. Mais...
Nous sommes à l'antenne, Serge de Beketch.
Non, on n'a pas entendu, c'était pas allumé. Bon, de toute façon, c'était. J'ai dit, si j'avais su que c'était comme ça d'être vieux, j'aurais pas vieilli. Mais j'étais prévenu trop tôt. Je suis aperçu quand j'ai commencé à avoir des rhumatismes.
Si j'aurais su, j'aurais pas venu.
Bernard Anthony va faire la direction de cette deuxième partie d'émission. Vous savez que c'est une nouveauté, on fait ça une fois par mois. Je reçois Bernard qui fait une espèce de prolongation radiophonique de son dictionnaire de la réplique. Aujourd'hui, il reçoit Maître Georges-Paul Wagner, il reçoit Louis de Condé. Je voudrais qu'on ait la télévision parce que vous verriez ce que c'est. Louis de Condé, c'est un personnage absolument fascinant à regarder. C'est une espèce d'élégance éthique et éthique avec la hache et sans hache. Vous verrez, je trouve. Vous êtes très beau, Louis de Condé, je vous le dis. Non, mais j'ai pas de drapeau. Je n'ai pas de drapeau. Non. Je n'ai pas de drapeau arc-en-ciel.
Et Richard Haddad, il est moche, alors.
Non, il est beau aussi. Il est beau aussi. Enfin, il y a Jean-Paul Le Perrier qui est pas terrible. C'est pas bon genre. Bien. Et puis, alors, cédant aux objurgations de Goffman, qui est un type assez intéressé, je vais lui donner 2-3 minutes. Vous aussi, vous êtes jolie, Victoria. Rassurez-vous, parce qu'elle me regarde d'un air triste.
Je ne suis pas du tout inquiète.
Ah bon, hein. Goffman veut absolument placer le journal.
Le bon docteur d'or a été comprimé et la promotion du Libre Journal totalement annulée.
C'est pas gênant pour un docteur d'être comprimé.
Mais merci à Bernard Anthony de m'accorder 3 minutes pour dire que le numéro 355 qui vient de paraître contient un article de 4 pages sur Bouteflika et le président algérien et ses rapports avec Monsieur Chirac dont nous avons déjà parlé. Et
donc, dans ces rapports, il faut quand même que je précise qu'il ne faut pas s'attendre à trouver là-dedans des révélations qui étaient sous-entendues dans un message d'auditeur que je n'ai pas lu en première partie. Il disait, est-ce que vous avez remarqué que quand Chirac rencontre Bouteflika, ils s'étreignent et s'embrassent comme des amoureux. Cet article ne fait pas allusion à cet aspect de leur relation.
Ce serait trop beau si c'était de ça seulement qu'il s'agissait.
Je n'ai pas l'impression que c'est si beau que ça quand même.
Mais je passe là-dessus parce que je crois que Bernard Anthony va en reparler. Nous avons 2 pages de François Brignon dont il était question également tout à l'heure sur l'interprétation des résultats du référendum qui sont passionnants, en particulier monsieur Azouz Begag se voit habillé pour l'hiver et déjà pour l'été. Ça recommence d'ailleurs à la page d'après, hein, les curieuses mœurs d'Azouz, ministre des Beurs. Bon gag.
Oui, j'ai ressorti un texte extrait du livre de Azouz Begag, ministre de je ne sais quoi ou sous-ministre de je ne sais quoi.
Scénariste dont ne sait quel film.
Scénariste de cinéma et romancier. Il a écrit un livre qui s'appelle le Gaune du Shabbat. Et j'en ai sorti un extrait.
Qu'on ne peut pas lire à la radio.
Ah non, on ne peut absolument pas le lire à la radio. C'est déjà.
Mais on peut le lire dans le journal.
Voilà. Non, mais j'ai hésité à l'imprimer parce que. Vraiment de penser que un type qui écrit ça peut être ministre, alors qu'on nous casse les oreilles, voilà, c'est le mot que je cherchais, à longueur de journée, à juste titre d'ailleurs avec les histoires de pédomanes et de pédophiles et tout. C'est ahurissant que Chirac ait pu prendre un type pareil pour être ministre. Ça montre que on n'est même pas dans la décadence, on est carrément en train de faire la brasse couler dans une fosse sceptique.
C'est hallucinant.
On a aussi une lettre ouverte, le début d'une lettre ouverte longue et véhémente de Guy Roland à ceux qui ont obtenu ou qui ont cru obtenir l'interdiction de la stèle aux combattants de l'Algérie française à Marignane récemment. Donc un pied noir qui répond vertement aux pieds verts, aux pieds bleus et aux gens de la Ligue des droits de l'homme. On a un reportage en Corée qui est sur les chantiers navals coréens qui est remarquable. Un reportage de Bonal au Brésil, qui est remarquable comme d'habitude. On a une double page magnifique qui c'est le feuilleton Sartre qui continue dans le numéro précédent, on montrait que Sartre était collabo sous Hitler, mais résistant contre au nazisme pompidolien. Et là, on a notre ami Daniel Abrocorn, aidé d'un autre ami Pierre Chémol, qui montre, qui décrit le procès le procès stalinien que Sartre a fait à Baudelaire en 48 pour lécher les pieds de Staline. C'est très bien démontré. L'abbé Guy Marie parle de notre frère Jean de la LCR.
C'est très drôle.
c'est émouvant, ça peut aller ensemble. Et puis bon, la vie mondaine du marquis, c'est fantastique. Woodstock à Chantilly, c'est extraordinaire. On a un très bon article sur la musique française. Et voilà. Et donc tout ça, on peut se le procurer. Donc ce numéro 355 pour un carnet de timbres ou 5 €. L'abonnement pour un an, donc trois journaux par mois, c'est 110 € à SDB 4 Place France Liste, 75 € Paris. On peut nous découvrir gratuitement sur notre site internet francecourtoise.info. Et puis si on part en vacances, ça ne sera pas sans le livre, les livres que nous venons de faire paraître. Serge de Beketch publie Le Dictionnaire de la Colère au Villa Hardy. C'est 30 € franco de port à l'ordre de Serge de Beketch, 4 Place France Liste, 75 010. Et à tout seigneur, tout honneur, mon chef-d'œuvre à moi, il s'appelle Diverses Droites. Et on le commande pour 23 € franco à Du Alpha Diffusion, BP 58, 77 522, Coulommiers, Cedex. C'est également en vente sur dualpha.com et même fnac.com, aux surprises.
C'est pas de la réclame, c'est de l'auto-célébration, c'est différent. Bernard, merci de nous avoir accordé ce petit...
Mais Serge, c'est moi qui te remercie.
Et la parole.
Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je prends volontiers le relais de Serge de Beketch, que je remercie. La première émission, je crois, a obtenu parmi vous un vif succès. Je remercie ceux qui ont téléphoné, ceux qui ont écrit. Beaucoup de questions sont arrivées et je rappelle dès maintenant que vous pouvez naturellement participer par vos objections, vos questions à l'émission de la réplique, en écrivant au 70 boulevard Saint-Germain, là où a été édité le dictionnaire de la réplique par l'éditeur Richard Haddad, Godefroy de Bouillon, que je salue ici. Alors, une mise en bouche très rapidement, puisque un certain nombre de questions m'étaient posées, mais comme il est d'usage pour le dictionnaire de la réplique, questions courtes et réponses rapides. Un auditeur de gauche, probablement, m'a écrit « La patrie, tout de même, c'est une valeur périmée, vous vous enfermez dans une notion dont qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. » Alors, il se trouve que je lis tout de même un vaste échantillon de presse et que, par exemple, dans la dernière livraison de Tribune juive, eh bien, Monsieur Cohn-Bendit déclare « L'Europe, ma nouvelle patrie ». Bon, donc le concept de patrie n'est pas périmé puisque Cohn-Bendit lui-même l'affirme. Mais il y a surtout tout un long entretien avec Arnaud Klarsfeld, célèbre fils de l'avocat Klarsfeld, qui dit que l'armée française l'a refusé, ça me paraît un tout petit peu curieux, mais enfin il a jugé bon de faire son service militaire dans l'armée israélienne. Tout cela, dit-il, il refuse de choisir, dit-il, sa patrie, mais un peu plus loin, ce que je souhaite, c'est être efficace et défendre Israël en France et aux États-Unis. Et l'on voit M. Klarsfeld, qui est si de gauche en France, patrouiller avec les fusils de l'armée israélienne, et je crois que lui aussi défend sa patrie, Israël. Enfin, un peu plus dans Libération, eh bien, je lis les déclarations de M. Mamadou, 21 ans, qui déclare ceci. Si on me demande « défend la France », j'y vais pas. Mais si on me demande « va défendre le Mali », j'irai. Parce que le pays me tient à cœur, c'est mon pays, le pays de mes parents, ma patrie. Alors vous voyez, quand Mamadou défend la patrie, quand Cohn-Bendit défend sa patrie, quand Klarsfeld défend sa patrie, ben nous aussi, nous défendons autour de cette table notre patrie française, et je crois que nul ne saurait nous nier, nous dénier la légitimité de cela. Autour, une autre question très rapide, vous attaquez la culture de gauche, vous manquez d'ouverture, alors la culture de gauche bat son plein en ce moment au Festival d'Avignon. Comme nous l'avions annoncé ici même sur les antennes de Radio Courtoisie, Monsieur Yann Fabre, célèbre pour sa pièce entre guillemets Crying Body au théâtre de la ville, est à Avignon. Alors voyez-vous, même Marianne Hein, nous sommes la veille du 14 juillet, on va y revenir. Même Marianne trouve que quand même cela va loin. Alors quand c'est à Marianne, parce qu'au Festival d'Avignon, bah, on découvre en ce moment la conception artistique du créateur de Train Body, M. Yann Fabre s'exprime. Alors des femmes alignées lèvent la jambe et urinent sur scène. Un aliéné saute dans la marée de pisse et éclabousse les premiers rangs. Des crachats recouvrent le corps et les joues d'un homme. Les comédiens et danseurs sont nus. Tous se masturbent sous les lumières crues. Le fou a fait pipi dans un bol et le porte à ses lèvres. Pardonnez-moi, chers auditeurs, de dire cela, mais il faut dire ces choses-là. Parce que quand cela se passe au Théâtre de la Ville à Paris, quand cela se passe à Avignon, dans cette cité merveilleuse de notre civilisation, là, on sent très bien que, comme le disait Léon Blois, on n'attend plus que les Cosaques et le Saint-Esprit. Et quand, monsieur le ministre, le dit ministre de la Culture, Donadieu de Vabre, qui a déjà été aspergé d'urine au Théâtre de la Ville, revient à Avignon, alors là, on ne peut en conclure qu'il aime ça.
Il y prend goût.
Alors, voilà un peu, chers amis, la mise en bouche. Mais nous avons aujourd'hui une actualité tragique. Cette actualité est faite comme trop souvent dans les pays de décadence par un mauvais sens du passé. C'est-à-dire revenir sans cesse sur le passé par le procédé de culpabilisation qui est celui qui, par lequel on entame notre civilisation. Serge de Becketch, dans son dernier libre journal, consacré, avec raison, quatre très belles pages intitulées « Chirac cède au chantage du macro-bouteflika ». Et autour de cette table ce soir, nous sommes là parce que nous ne cédons pas au chantage du macro-bouteflika. Monsieur Delanoë, faut bien, on a cité Donadieu de Vabre, on reste dans la famille. Voyez-vous, de souhaite que la France demande pardon pour les massacres de Sétif. Monsieur Delanoë, par ailleurs, dédier une place de Paris à l'émir Abdelkader, une rue à Mehdi Ben Barka. Alors, vous voyez que nous sommes dans l'actualité dont parle Serge de Becketch. Et autour de cette table, et nous allons y venir, Louis de Condé, tout à l'heure, Serge en a parlé avec l'admiration, l'affection qu'il mérite. Il a été combattant de l'Algérie française par fidélité à sa parole d'honneur, car il était dans notre Légion étrangère, il aimait passionnément ses soldats, il aimait passionnément ce peuple algérien auquel il voulait épargner les 40 ans d'horreur qui ont suivi la chute de l'Algérie. Louis, après s'être engagé en première ligne et dans le complot du petit Lamar, il nous dira pourquoi. C'est un témoin de l'histoire, il va répondre aujourd'hui à une émission qui a eu lieu récemment à la télévision, un docu-fiction, je crois que ça s'appelle comme ça, et il a des choses à dire, nous allons lui donner la parole dans quelques instants. J'ajoute qu'ensuite, parce qu'il faut le présenter un peu, vous désirerez sans doute le découvrir en d'autres occasions, après, en prison, avoir eu une attitude absolument héroïque, une grève de la faim que lui seul était capable de tenir sans mourir, de 40 jours, c'est comme dans l'Évangile, eh ben, il sera amnistié, gracié, on le retrouvera, se battant pour l'armée royale au Yémen contre la subversion communiste, et là, il sera médecin. Il aura appris tout seul la médecine, et il va sauver des petits bédouins, des petites bédouines. Il va se nourrir de lait de chameau, de dattes. Enfin voilà, c'est un personnage que l'ami Louis, qui est aussi un homme de charme délicieux et un grand connaisseur de livres, puisqu'il est à Vichy. Donc, il tient une librairie absolument admirable. Devant moi, Jean-Paul Leperlier. Jean-Paul était à Marianne la semaine dernière et il va nous parler de ce qui s'est passé à Marianne, une honte supplémentaire greffée sur la tragique histoire de l'Algérie. Jean-Paul Leperlier, lui aussi, a été un sous-officier de la parole donnée. Il s'était engagé pour la guerre d'Algérie. Je pense qu'il va faire un effort pour dire le pourquoi de son engagement. Je sais que ça sera très douloureux pour lui. Ensuite, il connaîtra les pensions de la République et puis on le retrouvera journaliste à Minute de la Grande Époque, le Grand Minute, où était mon ami Serge de Becketch. C'est là que je l'ai découvert jadis. À côté de Jean-Paul, c'est Richard Haddad, mon compagnon de combat. Nous partageons un patriotisme français commun et une petite fibre. Chez moi, de pays découvert amoureusement, le Liban. Chez lui, d'origine libanaise. Il est notre éditeur et il a été l'infatigable animateur du Cercle National des étudiants de Paris, qui a été une pépinière d'étudiants non-conformistes, refusant la chape de plomb marxiste sur l'université. Et enfin, Georges-Paul Wadner, que je ne présente pas, mais qui est le président des avocats de la GRIF. Hélas pour moi, notamment, il ne plaide plus parce que il a gagné tous mes procès, il en a gagné bien d'autres, mais surtout ce soir, il parlera parce qu'il a été aussi le grand avocat des combattants, aussi et notamment le grand avocat des combattants de l'Algérie française.
Je précise, je ne plaide plus, non pas parce que je n'ai plus de voix, mais parce que je suis retraité.
Voilà, c'est une mauvaise retraite, Georges Paul. Avant d'oublier, le 24 août sera notre prochaine émission, et d'ici là donc, donnez-nous vos objections, demandez-nous les répliques, vous le voyez, nous ne sommes pas à court, et si nous sommes à court, nous irons chercher ceux qui peuvent vous les donner. Quelques annonces très rapidement, Orange, l'université d'Orange, un grand succès l'an dernier, cette année ça sera encore mieux, vous y retrouverez les personnes autour de cette table, 28, 29, 30 et 31 août, et vous pouvez prendre tout renseignement sur l'université d'Orange au centre Charlier au 01 40 51 74 07 en nous écrivant au 70 boulevard Saint-Germain. Voilà, je redonnerai peut-être l'annonce en fin d'émission. Enfin, le 18 septembre, c'est la journée familiale, culturelle, récréative du centre Charlier et bien sûr de rentrée politique. Notamment pour ce qui est de la politique, alors pour ce qui est de la culture, ça sera les écrivains de l'Algérie française. Richard Haddad a cette mission, les regrouper. Déjà, Laïos Barton m'a donné son accord, Dillinger, Alain Sanders et beaucoup d'autres. Ce soir, on ne va pas les citer, nous n'aurions pas le temps. Ça va être une très belle journée à Villepreux que celle du 18 septembre. Nous aurons ce jour-là comme invité d'honneur Karl Lang et il y aura Jeanne Smith du journal Présente, Thibault de la Tolnay, vice-président de Chrétienté Solidarité. Voilà pour les orateurs, peut-être un invité surprise. Et enfin, je le donne déjà en primeur aux auditeurs de Radio Courtoisie. Au mois de novembre, ça sera pour les 20 ans de la GRIF, le grand dîner de gala de la GRIF. À ce dîner de gala, et oui Serge, nous inviterons le Premier ministre, les ministres des Affaires judiciaires, de l'Intérieur, nous inviterons l'archevêque, le grand rabbin, le recteur de la mosquée de Paris, les députés de l'UMP, de Philippe de Villiers, du Front National, parce que nous avons des choses à leur dire. Et nous pensons qu'ils viendront, parce que je tiens à leur exposer l'angoisse dans laquelle nous sommes devant la montée du racisme anti-français et du racisme anti-chrétien. Très logiquement, ils assistent au dîner-débat du CRIF chaque année, Conseil représentatif des institutions juives de France, et je comprends les juifs qui disent leur angoisse devant la montée d'un racisme que nous avions annoncé et prévu, mais je ne vois pas pourquoi ils ne viendraient pas nous écouter. J'en ai des choses à dire à M. Sarkozy, ou plutôt nos avocats. Les orateurs, ça sera Jacques Trémollet de Villers, Maître Jean-Paul Wadner, Valorant Saint-Just, Maître Le Driel, ils exposeront les combats de la GRIF. Les journalistes écouteront et j'espère que Monsieur le Premier ministre nous répondra, que Monsieur Sarkozy nous rassurera, que Monsieur Dalil Boubacar dira qu'il est prêt à se soucier du sort des chrétiens dans le monde, que le grand rabbin de Paris nous dira sa sollicitude pour les chrétiens dans le monde. Voilà, mes chers amis. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons donner la parole à nos invités. Alors, voyez-vous, ce qui nous a motivé, ce qui a motivé cette émission un peu spéciale ce soir, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Marignane. Et puis, l'émission dont je parlais. Mais je voudrais très rapidement ici que, dans un premier temps, notre ami Jean-Paul Leperlier nous disent pourquoi cette inauguration de la stèle à Marignane et pourquoi cet honneur dû aux combattants et aux morts de l'Algérie française.
Eh bien, ça se passait donc le 6 Il eût été normal, si on avait l'intention d'interdire quelque chose, de l'interdire, par exemple, la semaine précédente. Le préfet a cru pouvoir attendre la nuit même pour nous interdire de passer, de célébrer le martyre de nos amis. C'est assez vicieux de sa part, dans la mesure où 1500 personnes étaient venues de tous les coins de France. Pendant la nuit, notre président a dû se rendre à Marseille à pleine nuit pour trouver son avocat. Il a dû ensuite passer la matinée à lutter pour qu'on nous autorise quand même à pénétrer dans le cimetière et donc à rendre honneur à nos morts. Et puis le tribunal à qui nous, donc, nous avons déposé un référé a attendu à peu près jusqu'à midi, midi et demi pour donner sa réponse, laissant 1500 personnes, dont beaucoup de vulages des combats d'Algérie, de 60 à 80 ans, sous le soleil. Voilà. Alors notre crime, pour vous répondre, c'était quoi? C'était simplement de vouloir honorer les combattants de l'Algérie française. Alors bien sûr, on nous dira, oui, mais c'était ceux de l'OAS. Eh bien, ce furent les plus courageux, ce furent les derniers fidèles, et à travers eux, bien sûr, nous rendons aussi hommage à tous les autres. Parce que notre combat, ça a été aussi une fidélité à tous ceux qui étaient morts avant nous, sous le même uniforme. Est-ce que je vous ai répondu? Avez-vous d'autres questions?
Oui, parce que je tiens juste à ajouter que j'étais là, comme Roger Hollande, comme beaucoup d'autres. Il faut rappeler qu'il s'agissait là, tout simplement, d'un acte nouveau d'hommage aux morts de l'Algérie française par l'inauguration d'une stèle semblable à celle de Perpignan.
Oui, qui existe déjà à Perpignan.
À celle de Théoul.
Oui, tout à fait.
Et donc, nous avions appris que suite au chantage d'un certain nombre d'organisations, donc il y avait un projet, il y avait interdiction. Un référé a été fait qui a confirmé cette interdiction. Je tiens à dire ici, pour la vérité des choses, puisque j'étais là, que le maire de Marignane, si notre Daniel Simon-Pierry, a eu une attitude très honorable, car non seulement il a accueilli avec beaucoup de gentillesse cette manifestation, et ensuite il a pour honneur de faire garder par sa police municipale cette stèle. Parmi les organisations qui appelaient à manifester contre donc cette inauguration qui était censée être une provocation, ce n'était évidemment pas, la Fondation Charles de Gaulle. La Fondation Charles de Gaulle et aussi les organisations dites antiracistes, les organisations de gauche et d'extrême gauche. Il y avait 30 organisations et elles ont rassemblé 15 contre manifestants.
D'aller voir Monseigneur Gaillot, j'imagine. Non,
il n'était pas là, mais il devait être parmi les signataires, parce que je dois dire, Jean-Paul, que
il est rarement absent de manifestations de cette sorte.
Que je n'ai pas lu toute la liste des signataires. Mais en revanche, c'est tout de même là que nous rentrons dans une actualité qui est absolument insupportable. Celle des propos du macro Bouteflika, puisque Bouteflika, comme Serge de Bekech l'explique dans son journal, a été effectivement titulaire de cette fonction de macro. Alors là, cela nous amènerait à réfuter, et nous le ferons au cours de cette émission, mais probablement dans le prochain dictionnaire de la réplique, tous les mensonges sur la guerre d'Algérie. D'abord, Monsieur Delanoë, qui demande la repentance sur les massacres de Sétif. Enfin, ce qui s'est passé à Sétif, c'était l'ignominie de foules musulmanes déferlant, éventrant, violent, dépeçant. Voilà ce qu'il faut rappeler, que Monsieur Delanoë oublie. Nous allons nous occuper, nous aussi, de la mémoire de Sétif. Et puis, ça a été la tragique histoire de l'Algérie française. Cette tragique histoire a fait que vous vous êtes engagé, nous y reviendrons, Jean-Paul Leperlier, Louis de Condé. Ça a été le déclic de votre vie, et c'est pour cela que vous êtes ce soir, parce que je crois que vous avez eu aussi à affronter une actualité, celle du film docu-fiction sur l'attentat du Petit Clamart. Alors, pour tout le dire, vous étiez des organisateurs de cet attentat, mais pourquoi avez-vous participé
plutôt
à cela?
Plutôt qu'un organisateur, un exécutant, mais je dirais un soldat. Alors, je dois faire un petit retour en arrière. J'étais un peu gêné par les louanges de Serge Beketch et de mon ami Bernard Anthony. Bon, je crois que si je dois me qualifier moi-même, je dirais d'un seul mot, je suis un patriote. J'aime ma patrie parce que je suis né en France, je suis français, j'aime ma patrie, la terre de mes pères. Alors, toute mon histoire, comment elle a commencé? Elle a commencé parce que, à l'âge de 18 ans, j'ai accompli la préparation militaire parachutiste à Paris, au Fort-Neuf de Vincennes, et que j'avais des instructeurs absolument remarquables, dont l'un jouait un très grand rôle dans ma vie, c'est Jean de Brême. Tous ceux qui ont connu Jean de Brême savent que c'est un homme absolument exceptionnel et qui est mort tragiquement, justement, parce qu'il a défendu lui aussi l'Algérie française. Et Jean de Brême a été d'abord mon chef de stick, et puis ensuite il a été mon chef, donc il a été mon modèle, et puis il est devenu mon camarade et mon ami. Et le jour le plus triste de ma vie, c'est sans doute celui quand j'ai appris sa mort tragique à Paris, rue de l'Estrapade, en 1963. Donc, pendant que je faisais la PM para, j'ai eu entre les mains deux ouvrages, Meloudza et Bagram accusent et aspect véritable de la rébellion algérienne. Ces ouvrages-là, vous voyez à la page, n'est-ce pas, une certaine page, 28 mai 1957, génocide de la Meshta Kasbah, village de Meloudza, bilan 301 morts, 150 blessés. Et puis après, vous avez Bagram, 35 morts, 24 blessés, puis vous avez des photos absolument horribles, parce que les Félagas, les rebelles donc, n'étaient pas seulement, disons, des ennemis de la France, qui possédaient la nationalité française, puisque la vérité française, c'était aussi des tortionnaires et des barbares. Et moi, j'ai pensé, en voyant ces photos, que c'était les pires barbares qui étaient jamais apparus sur la Terre, et que mon devoir, moi, de jeune Français, c'était de chercher à les éliminer. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un premier séjour en Algérie de 3 mois, l'été 58, dans une section administrative spéciale, dans l'Ouarsenis, une région qui était totalement pacifiée, et j'ai vu ce que c'est la pacification, et j'ai d'abord, débarquant à Alger, j'ai été conduit sur le forum par les officiers SARS, qui nous ont expliqué ce que ça avait été la fraternisation, cet élan absolument magnifique, où 100 000, disons, habitants de l'Algérie, européens, et arabes, tous ensemble, unis, fraternels, et nous avions la certitude que l'Algérie serait définitivement française, pour le bien des habitants de l'Algérie, et le bien aussi des habitants de la métropole. Voilà, et donc c'était une expérience, ces 3 premiers mois ont été une expérience magnifique dans l'Ouarsenis, où j'avais un rôle moitié civil, moitié militaire, et à mon retour, je me suis engagé. Je me suis engagé dans les paracoloniaux, parce qu'à l'époque, Bijar était notre héros, donc je souhaitais porter le béret rouge, et puis parce que j'avais fait des études supérieures, au lieu de rester dans une section d'engagés et de partir dans un régiment d'engagés en Algérie, je suis passé dans la compagnie des appelés. Et donc j'ai préparé les EOR, j'ai été reçu, j'ai fait 5 mois ou 6 mois élève officier de réserve à Cherchel, et ensuite j'ai choisi l'unité que je considérais comme la plus belle armée française, c'est la Légion étrangère, où j'ai eu l'honneur donc de servir pendant assez longtemps. Et puis ensuite j'ai quitté, ce que Bernard ne sait pas, au bout d'un an j'ai quitté la Légion étrangère parce que c'était fin 60 et que j'étais absolument révolté parce que nous savions à l'époque que De Gaulle déjà voulait larguer la nous le savions, on avait compris le virage qui avait commencé en disant 1959, déjà l'année précédente, et donc pour mauvais esprit j'ai dû quitter la Légion. On voulait m'envoyer en métropole, mais j'ai réussi à aller au 6e BCA, 6e bataillon de chasseurs alpins en Kabylie. Alors jusqu'à présent je n'avais eu des fonctions 2 fois chef de section, à l'instruction d'abord au premier étranger, et puis ensuite dans un régiment opérationnel de 5e RI, je n'avais eu de contact qu'avec les légionnaires. Cette fois-ci, j'ai eu, pendant mes 3 mois en Kabylie, tout à fait dans les montagnes, très haut dans la montagne, puisque le col de Tirourda, qui est bien connu des Pieds Noirs, était dans mon secteur, j'avais la responsabilité de 4 villages. Et donc le jour, je passais dans les villages, et je recevais, disons, les doléances des anciens du village, et lesquels me disaient à plusieurs reprises, mais toi tu sais, tu vas partir. Et moi je répondais, est-ce que je leur mentais sciemment ou est-ce que je me mentais à moi-même? Je me suis toujours interrogé, c'est toujours encore mystérieux pour moi. Je leur disais, non, l'armée française ne quittera jamais l'Algérie, et moi je ne vous quitterai jamais. Et en plus, au cours d'un ratissage, nous avons trouvé une cache. Et dans cette cache, nous avons vu des documents qui étaient absolument révélateurs. C'était un petit chef Felaga qui écrivait en français et qui écrivait à ses hommes « Nous vivons comme des chiens, nous sommes depuis des années, nous sommes traqués, beaucoup de nos camarades sont morts, nous devons nous cacher le jour, nous ne sortons que la nuit. » Mais écoute mon frère, la radio de Tunis, la radio de Paris, nous allons gagner, c'est le dernier quart d'heure, tenant encore le dernier quart d'heure, nous aurons l'indépendance. Et j'étais totalement, évidemment, révolté par ces lectures, et je pense que ça, disons, jouait beaucoup dans mon engagement dans l'Ouest. Et puis, j'ai été démobilisé le 15 avril, j'avais des amis pieds noirs avec qui j'ai vécu quelques jours à Alger, le putsch m'a surpris à Alger. Le 22 avril. Le 23 avril, je suis parti à Blida pour empiler dans un régiment de parachutistes ou de légion, et ça avait été accepté. Il faut savoir que quand un sous-lieutenant de réserve, rempile, il faut l'autorisation de son ministre, puisque les ponts étaient coupés entre Alger et Paris, ça a été accepté, et j'aurais dû recevoir ma nouvelle affectation rue Michelet. Mais le putsch, malheureusement, a raté, et donc le 25 avril, j'étais sur le forum, j'ai pleuré avec tous les pieds noirs qui étaient là, quand j'ai vu le général quitter le balcon, et le lendemain, 26 avril, grâce à mes amis pieds noirs, je suis rentré dans l'Ouest en Algérie. Mais comme j'avais fait ces études à Paris, que j'étais un Parisien, il avait été jugé bon, donc que je fasse partie de l'Ouest à Paris.
Je vous coupe un tout petit peu, Louis Condé. Il est peut-être bon de rappeler pour les auditeurs, et notamment pour les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes auditeurs à Radio Courtoisie, et c'est une bonne chose, qu'à cette époque-là, bien entendu, que j'ai connu aussi, et Georges-Paul Velder et tous ceux autour de cette table, le général de Gaulle avait fait des promesses qu'il convient de rappeler, car elles sont occultées. Alors, elles ont été rappelées avec d'ailleurs les déclarations de son premier ministre Michel Debré dans Reconquête. Je tiens à la disposition des auditeurs la sélection, l'anthologie que nous avons faite des propos du général de Gaulle et de Michel Debré. Ce sont les propos sur l'Algérie française. Venez à la France, elle ne vous trahira pas. Bonne Saint-Juin, c'est à Constantine. Le rôle séculaire historique de la France doit s'accomplir. Oran, la France est ici avec sa vocation, elle est ici pour toujours. Mostaganem. Alors, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas du tout une formule qui a échappé à
De Gaulle. Non, absolument pas.
Georges-Paul Wagner.
Ça a été répété, affirmé de nombreuses fois, et c'est la cause d'ailleurs. Moi, j'étais au procès, vous le savez, au procès du petit Clamart. C'est la cause qui a été souvent répétée, justement, de la révolte de tant de soldats qui n'ont pas pu supporter cette contradiction flagrante. Ce mensonge d'État du général de Gaulle.
Alors, vous voyez, Mostaganem, on cite toujours Mostaganem, vive l'Algérie française, mais il y a 40 citations comme cela. Et puis, je vais rendre la parole à Louis Condé et à Jean-Paul Leperlier, mais enfin, ces jeunes officiers sont déterminés par des textes, par des journaux. Et moi-même, je me souviens, je suis plus jeune que vous, un tout petit peu à peine, mais ça suffit, je ne suis pas en Algérie. Je lis à la maison Carrefour, le journal gaulliste de Jacques Soussel, de Georges Bidault, et mon père me donne surtout le courrier de la colère de Michel Debré. Et voilà, notamment, parmi 50 citations du même acabit, que les Algériens de Michel Debré, que les Algériens sachent surtout que l'abandon de la souveraineté française en Algérie est un acte illégitime. C'est-à-dire qu'il met ceux qui le commettent et qui s'en rendent complices hors la loi, et ceux qui s'y opposent, quel que soit le moyen employé, un état légal de légitime défense. Pour Michel Debré, donc Jean-Paul et vous, donc Louis, vous étiez un état légal de légitime défense. Non. Et c'est là...
Je voudrais dire un mot
oui,
quand même.
Bien
c'est
sûr,
que,
Jean-Paul,
c'est que ce n'est pas de l'encre, c'était du sang, ces paroles-là. Parce qu'au nom de ces paroles-là, des officiers ont envoyé des jeunes garçons mourir, ont vu revenir les cadavres, ont regardé les yeux s'éteindre. Ces choses-là, on les vit sur place. Ce n'est pas de la littérature. On a vu des harkis se faire assassiner parce qu'ils ont cru jusqu'au bout. C'était du sang.
J'ajouterais que l'expression « hors la loi » employée par un juriste comme Michel Debré a un sens très précis. Sous la Révolution française, « hors la loi », ça veut dire « c'est un homme à abattre sans jugement ». N'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire, hors la loi. Et par conséquent, en employant cette expression comme il l'a fait, il donnait en quelque manière autorisation d'avance à tous ceux qui observeraient un comportement comme celui qu'il dénonçait pour liquider, si je puis dire, le personnage hors la loi qu'il avait d'avance désigné.
Autrement dit, Michel Debré avait jugé déjà son propre chef.
Oui, vous savez...
Parmi les déclarations, il y en a une que j'estime encore plus importante que toutes celles-là, et que moi j'avais citée lors de ma brève déclaration lors de mon procès, c'est « Moi vivant, le drapeau français ne flottera jamais sur Alger ». Alors, il était vivant et le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger. Et lui, vivant, le drapeau FLN flottait sur Alger. C'est pour ceci que nous l'avions condamné
alors,
à mort.
Si vous... Il s'était condamné à mort lui-même et vous avez exécuté sa sentence. Moi, vivant, le drapeau ne flottera pas sur Alger.
Vous deux, vous êtes parmi les milliers qui vont s'engager pour la fidélité à la parole donnée. Parce que vous avez sur le cœur ce que vous avez vu. Vous allez vous engager à des niveaux différents. Mais tous les deux, vous allez payer très cher. Dans un premier temps, je voudrais que Jean-Paul dise son engagement à cette époque-là, sa révolte. Et je sais qu'il peut parler difficilement, tellement
c'est, il a c'est un engagement.
Mais il faut qu'il fasse un effort pour les jeunes.
C'est un engagement qui a des racines. À 13 ans, j'étais enfant de troupe dans une école militaire. Je pensais vraiment que ce qu'on pouvait faire de mieux dans sa vie, c'était donner cette vie à son pays. Ça voulait pas dire mourir stupidement, mais consacrer son existence à son pays jusqu'à accepter de la perdre. Et j'étais là dans cette école avec des petits gamins qui avaient 13 ans et les jeunes filles dont nous rêvions, les seuls mots de jeunes filles que nous connaissions le soir dans nos petits dortoirs, c'était les noms des 5 pitons de Dien Bien Phu. Nous ne vivions que pour ça. Nous y avons cru de toutes nos forces. Et puis un beau jour, on nous a appris, laisse-moi parler, je t'en supplie.
Bien sûr,
oui,
bien sûr.
On nous a appris que nos espoirs étaient vains, que Dien Bien Phu avait disparu. Nos officiers n'osaient même pas nous regarder dans les yeux. Pour nous, c'était impensable. Mais nous avions 13 ans, 14 ans. Nous vivions dans des idées de grandeur de la France et nous nous disions, nous n'avons pas l'âge de nous engager. Mais ils vont voir ce que c'est que la France, ce grand pays. Tous les jeunes vont se lever d'un seul élan. Ce petit peuple minuscule ne peut pas insulter la France, emmener notre armée en prison, les meilleurs, ce qui s'est passé à Dien Bien Phu. Le pays va réagir. Et c'est pour moi le début de l'engagement, la terrible prise de conscience. Le premier jour de la semaine, qui était un jour de congé, nous avons décidé de partir dans la petite ville des Andelys pour y rencontrer les gens de notre âge, les civils, les voir communier avec leur armée, sentir qu'ils nous suivaient, puisque nous n'avions pas l'âge d'y aller, mais comment qu'ils étaient prêts à faire ce que nous aurions tellement aimé faire. Et dans cette petite ville, nous avons rencontré l'indifférence totale et nous ne comprenions pas. Et puis brusquement, un immense espoir, derrière un mur en briques, nous avons entendu des hurlements extraordinaires, un enthousiasme extraordinaire. Elle était là, la jeunesse de France. Nous allions enfin communier avec notre pays, nous, dans nos petits uniformes militaires. Derrière le mur en briques, il y avait un terrain de football. J'ai jamais pu oublier ça. Je suis devenu adulte en quelques minutes. Si perdre ses illusions, c'est devenir adulte. J'ai compris que l'armée était toujours belle, mais qu'il n'y avait plus de place pour notre héroïsme, il n'y avait plus de place pour nous dans ce pays. Ces gens-là ne voulaient pas nous recevoir. Alors, nous avons travaillé n'importe comment, nous n'y croyons plus, nous avons quitté l'école militaire. Et puis, j'en reviens maintenant, ça c'est le début de tout. Et quand en 58, un général est devenu ce qu'il était à la tête de l'armée, au nom de l'Algérie française, parce qu'il faut bien comprendre que c'est uniquement les événements d'Alger, et uniquement au nom de l'Algérie française, uniquement au nom de ses promesses pour l'Algérie française, que le plus grand général de France, le plus célèbre, s'est engagé. Alors, l'intuition de mes 14 ans, j'y ai cru. Et je me suis donc retrouvé dans l'armée, comme j'avais été quitté l'école militaire comme sergent, simplement. Et je me suis retrouvé dans ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que la Légion, au minimum, on est sûr que les copains qui sont autour de vous vont pas vous laisser tomber. Mais les commandos de chasse, c'était des Kabyles récupérés dans les montagnes. C'était certains qui venaient volontiers, c'était aussi des prisonniers alliés. C'était très dur. Mais petit à petit, comme nous avions 20 ans, se créaient des liens. Se créaient des liens comme ce peuple, se créaient des gens de 20 ans qui sont ensemble. J'avoue, je ne sais pas pourquoi, on m'appelait le Kabyle. Je m'entendais mieux avec les Kabyles qu'avec les Européens, nous, qu'on a accusés de racisme par la suite, en plus, à cause de nos engagements dans l'Ouest. Et ces gens-là ont commencé à douter dans les années 60. Mais enfin, sergent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend à la radio? On va nous laisser tomber? Mais moi, de toute ma foi, de toute ma naïveté, impossible. C'est le plus grand général de France. Il les manœuvre, les gens du FLN. Je n'avais pas à l'époque la culture qui était celle de Monsieur de Condé. J'étais naïf. J'y ai cru jusqu'au bout, et ils ont cru jusqu'au bout, et ils m'ont suivi, moi, jusqu'au bout. Parce que c'était vraiment ça, une section de harkis dans les commandos, c'est des gens qui pouvaient partir à la fin du mois. S'ils restaient, c'était parce qu'ils y croyaient. C'était une sorte de bande de copains, en quelque sorte, une unité de commando. Parce qu'ils n'étaient tenus que par ça, par la confiance qu'ils avaient en vous, par le désir de vous suivre. Bien. Et puis un beau jour, inexplicablement, on a séparé tous les cadres du commando, tous ceux qui avaient des liens affectifs avec leurs hommes, et on nous a envoyés dans un petit village très haut dans la montagne en Kabylie. Comme à l'époque les frontières avaient été ouvertes et que le FLN à nouveau reparaissait, on ne pouvait plus sortir, on était enfermé là-dedans uniquement entre sous-officiers et officiers. Donc, on se demandait ce qu'on faisait là. Et on nous approvisionnait seulement une seule fois par semaine avec des Halftrag, tout un convoi qui nous amenait de quoi manger pour la semaine puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et puis un beau jour, les gens du convoi nous ont expliqué ce qui était arrivé aux camarades. Camarades de mes 20 ans. Excusez-moi, vous pouvez me parler un petit peu parce que j'ai
oui,
du mal à
oui, Jean-Paul. Bon, Louis, à ce moment-là,
je crois que ça revient.
Bon, voilà. On reviendra. Bref, oui,
je reviens à ça quand même.
Bien sûr.
Parce que notre ami, Jean-Paul,
et tous les deux.
Notre ami Jean-Paul a évoqué Dien Bien Phu, et tout à l'heure, nous avons évoqué la patrie. Et je peux dire qu'en 1954, quand Dien Bien Phu est tombé, la jeunesse française était patriote. Ce qu'elle n'est plus maintenant, ce que je regrette profondément. Moi-même, j'ai vécu ça, j'avais 15 ans, j'étais en classe de philosophie au lycée Janson de Sailly, et pendant la bataille de Dien Bien Phu, tous les jours, nous suivions le déroulement des combats, et tous les matins, à la première récréation, nous en parlions. Et quand Dien Bien Phu est tombé définitivement, toute la classe a pleuré. Et ça, c'est le premier fait vraiment important de mon adolescence quand j'avais 15 ans.
C'est parce que vous
et je n'ai pas voulu revivre ça en Algérie. Je n'ai pas voulu revivre ça en Algérie.
Alors, Jean-Paul, après ces drames que vous ne pouvez pas...
Je vais essayer d'en parler quand même parce qu'il y a tellement de mensonges dans le camp d'en face qu'il faut parfois essayer de dire la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Mais donc, on m'a appris que les copains de mes 20 ans qui m'avaient fait confiance avaient été écartelés avec des tracteurs, brûlés vifs, étaient morts de manière ignoble, que j'ai raconté tout à l'heure, que je pourrais même pas raconter sur une radio, parce que ces gens-là ont des manières de tuer, de tripotage sexuel, des ignominies qu'on n'imagine pas, en fait. Et je me suis retrouvé dans la peau d'un salaud, en me regardant ce jour-là dans la glace. Je me suis dit, c'est uniquement parce qu'ils t'ont fait confiance. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je peux pas rentrer vivre en France tranquille maintenant. Il faut que je suive le même chemin qu'eux, il faut que je me batte jusqu'au bout. Il restait l'OAS et j'ai rejoint l'OAS. Alors c'est absolument atroce de nous dire qu'on a pu être dans l'OAS par racisme. Le vice-président de notre association, par exemple, le capitaine Favarel, s'est lui aussi engagé après qu'un de ses amis harkis ait été crucifié sur la porte d'une grange, par exemple. Alors, c'était pas du tout un mouvement raciste, comme on a pu le dire, le mensonge est total. Et Je voudrais continuer sur un point. Lorsque j'étais en prison quelques années plus tard, il se trouve que j'étais à Bab El Oued, par hasard, dans une équipe juive. Alors, vous voyez, l'antisémitisme de l'Ouest,
avant d'être en prison, bien sûr.
Et je vois arriver celui qui était mon chef, juif, qui était arrêté avec moi, qui arrive de par Loire, les traits complètement tirés, mais je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu un mort dans ta famille? Il me dit, tu ne peux pas savoir ce qu'il nous faut supporter, nous, juifs d'Algérie. On nous a fait français avec le décret Crémieux. Maintenant, on nous chasse de là-bas parce que nous sommes français. Nous nous sommes battus pour rester français. Figure-toi que ma femme vient de me dire qu'on nous traitait de nazis. Alors, les petits juifs de Bab El Oued qui se battaient pour rester français étaient traités de nazis. Le mensonge est total quand on parle de ce qu'était l'OAS. Je crois que ça a été pour beaucoup, pas un acte politique, pour beaucoup de jeunes, un acte d'amour, un acte de fidélité à des camarades tombés et que tout le reste n'est que mensonge.
Eh oui. Et puis Michel Debré, rappelons-le, qui vous dit que ceux qui se mettent en travers de l'Algérie française, ceux qui s'y opposent, quel que soit le moyen employé, sont en état légal de légitime défense, n'est-ce pas, Georges Paul?
Oui, absolument. Oui.
Rappelons-le pour ceux qui viendraient en cours d'émission. Et alors là, l'avis de Louis de Condé bascule, parce que là, vous allez au fond être docile
avant, avec Jean de Brême, quand nous avons créé ce réseau de propagande, nous avons justement affiché sur les murs de Paris, dans tout Paris, moi j'étais responsable du 16e arrondissement, celui où j'y vais, nous avons affiché ces déclarations de Michel Debré, des grandes affiches, et nous regardions les réactions des passants qui ne comprenaient pas, parce que nos affiches étaient barrées tricolores. Donc ce qui était totalement vrai quelques années avant, ou quelques mois avant, devenait au contraire séditieux. quelques mois plus tard. Donc il y a un bouleversement complet que des gens normaux, que des gens de bon sens comme nous étions, ne pouvaient pas accepter. Et je répète encore une fois, ce qui est le plus important, c'est ce qu'a dit De Gaulle, moi vivant, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger. Et ça, je voudrais que tous les auditeurs de Radio Courtoisie notent cette phrase sur leur carnet et sachent le dire autour d'eux.
Alors là, est-ce que pour autant, je sais l'émission de la réplique, je sais ce que vous diront certains, mais fallait-il essayer de tuer le pourquoi fallait-il essayer de tuer le général De Gaulle alors que l'Algérie était perdue?
Mais tout d'abord, De Gaulle était un dictateur. Donc dans tous les régimes dictatoriaux, vous avez toujours des opposants qui veulent tuer le dictateur. Ça, c'est clair. Ça a été vrai en Allemagne, hein. Et malheureusement, ça a raté quand il s'agissait de tuer Hitler. Ça, il y a même eu des attentats contre Staline aussi, dont on a peu parlé. Bien. Donc, le dictateur, c'est l'incarnation du mal. Pour nous, c'était l'incarnation du mal. Donc, il fallait le tuer. Et, bien entendu, ça aurait été préférable de le tuer dès l'attentat de Pont-sur-Seine, dont Didier, c'est-à-dire le colonel Bassin-Thierry, était l'instigateur numéro un. Mais ensuite, nous avons, nous, dans notre équipe, je préfère le mot d'équipe au mot de commando, dans notre équipe, nous étions en embuscade toutes les fins de semaine, depuis fin février jusqu'au 22 août. Et bien évident, nous aurions préféré l'éliminer avant l'indépendance de l'Algérie. Mais il fallait également l'éliminer après, parce que nous connaissions, et là, je retiens les paroles vigoureuses, énergiques et très émouvantes de notre ami Jean-Paul ici présent, le massacre constant des harkis et des familles de harkis en Algérie, nous le savions. Et nous savions qu'en éliminant le chef de l'État, nous pouvions arrêter ce massacre.
Oui, voilà, c'est vrai.
Donc ce n'est pas seulement un acte de vengeance, comme il a été dit. Nous pouvions arrêter ces massacres abominables en Algérie.
Alors, attendez, je crois que le moment est venu.
Le moment est venu de rappeler que vous écoutez Radio Courtoisie et que Bernard Anthony reçoit Louis de Condé, Jean-Paul Leperlier, Richard Haddad et maître...
Georges-Paul Wagner.
J'allais dire Richard. Je suis pas bon dans les annonces.
Voilà. Alors,
vous connaissez la musique.
Je voulais dire une petite seconde avant que tu reprennes, si tu veux bien, que également, les quelques harkis qui, à la fin de l'Algérie, ont tenté, avec le peu d'argent qu'ils avaient, de rejoindre la France, étaient refoulés à Marseille et renvoyés là-bas se faire massacrer. On ne pouvait pas faire pire.
De reprendre, excusez-moi. Alors, je crois que...
Non, c'est ça. Nous avions le désir d'enrayer les massacres en Algérie. C'est ça, nous savions que c'était possible si on éliminait le chef.
Donc il y avait dans votre motivation, en quelque sorte, une motivation de justice, le tyrannicide.
Justice d'abord.
De même que tout le monde admettait qu'il était nécessaire de tuer Hitler, qui avait commis des abominations, de tuer Staline. Eh bien, les abominations en Algérie ne sont pas, hélas, passées devant le tribunal de l'histoire encore. Et c'est tout le problème du règlement de compte que nous avons effectué avec M. Bouteflika, dont le principal complice est M. Jacques Chirac. Hein, parce qu'enfin, tout de même, recevoir, comme l'a fait Jacques Chirac, avec les honneurs spéciaux qu'il a accordés à Toulon l'année dernière, hein, le recevant en réception privée au fort de Brédançon, celui qui a été parmi les ordonnanciateurs des massacres que vous venez de décrire, hein, allant bien au-delà dans l'horreur, peut-être même dans la sophistication de tout ce qui s'est passé dans les régimes totalitaires, au nombre de morts infiniment supérieurs. Mais enfin, tout de même, les 300 000 harkis. Alors, donc, premièrement, Louis de Condé, si je restitue, c'est le tyrannicide, il faut que justice soit faite.
C'est d'ailleurs, si vous permettez, ça a été développé de façon très précise et très claire et excellente au cours du procès du petit Clamart par Bastien Thierry lui-même, qui s'est référé à cet égard jusqu'à Saint-Thomas d'Aquin et les conditions dans lesquelles celui-ci justifie le régicide ou le tyrannicide.
Et puis, alors, le second argument, qui est important dans le débat historique aujourd'hui, tenter, si nous avons bien compris, d'enrayer les massacres, parce que ça ne s'est pas effectué sur quelques journées, ça s'est prolongé, et on pouvait jusqu'au bout espérer qu'avec un autre chef d'État, il y aurait une prise de conscience et que l'armée française, qui était encore en Algérie, pourrait intervenir. Mais là, Serge de Becquetch veut intervenir.
Non, je veux simplement dire mon opinion, c'est mon opinion, hein. Je trouve que la comparaison entre l'attentat du 21 juillet, enfin de l'attentat du 21 juillet avec l'attentat du petit Clamart est inadéquate parce que dans les deux cas, ce sont des officiers qui s'en prennent au chef de l'État pour le tuer. Mais Dans le cas de la tentative du petit Clamart, il s'agit de tuer un chef d'État qui a trahi la parole qu'il avait donnée à ses propres officiers.
Oui, c'était vrai.
Dans le cas de l'attentat contre Hitler, c'est exactement le contraire. Ce sont des officiers félons qui veulent tuer le chef de l'État parce qu'ils ont passé des accords avec l'ennemi. C'est radicalement le contraire. Alors, on peut, ça ne veut pas dire qu'on prend la défense de qui que ce soit, mais historiquement, il faut quand même admettre que les officiers qui ont fait l'attentat du 21 juillet étaient des traîtres à la cause pour laquelle ils s'étaient engagés, alors que les officiers du petit Clamart étaient dans le droit fil de la parole donnée. Voilà, c'est tout.
C'est dans ce raisonnement-là, je ne l'apprécie pas beaucoup. Parce que je pense que ces officiers qui ont voulu tuer Hitler voulaient surtout abréger les souffrances de l'Allemagne parce qu'ils savaient déjà que la guerre était perdue. Alors, je pense que c'est ça la principale motivation.
Louis de Condé, alors ensuite, c'est l'engagement et vous réagissez ce soir à l'émission qu'il y a eu à la télévision et pouvez-vous maintenant commenter.
Bref, moi j'ai toujours été volontaire. Quand j'ai appris par un clandestin dont on a vu qui a parlé longuement dans le film, c'est-à-dire Jean-Claude Belvisi, par lui, parce que je l'hébergeais, il était clandestin, j'ai appris, n'est-ce pas, qu'il était dans cette équipe qui voulait tuer De Gaulle, je me suis immédiatement pensé volontaire, comme j'avais été volontaire pour dans d'autres circonstances, parce que pour moi l'OS c'était l'organisation armée secrète, j'étais toujours un militaire avec d'autres fonctions, d'autres missions, donc j'ai pensé très tôt que De Gaulle devait être éliminé, il aurait fallu l'éliminer dès 1960 et ça aurait évité bien des tragédies. Donc je me suis porté volontaire, tout simplement, parce que, d'une part, j'étais célibataire, je n'avais pas de femme, pas d'enfant, donc j'étais beaucoup plus disponible que le colonel Bassin-Thierry, qui était lui-même marié et père de famille. Et puis je savais tirer à toutes les armes, j'étais en bonne santé, donc voilà pourquoi je suis porté volontaire. Alors j'ai fait équipe avec d'abord avec Max et Georges, c'est-à-dire la Tocnay et Latin. Et puis, je vous l'ai dit, toutes les fins de semaine, nous étions en embuscade et nous l'avons. C'est seulement le 22 août que les armes ont tiré. Voilà ce que j'ai à dire. Alors maintenant pour parler de ce film. Ce film, je l'ai vu naturellement, je l'ai enregistré et puis je l'ai revu. Parce que j'ai connu tous les acteurs, je peux évidemment faire quelques critiques sur ce film. Dans plusieurs de mes amis ont dit que ça aurait pu être pire, et c'est vrai. Mais néanmoins, sur la période cruciale de la fin de la 4e République, le début de la 5e, c'est-à-dire la façon dont De Gaulle est arrivé au pouvoir de façon extrêmement habile, et n'est-ce pas, il n'y a pas grand-chose, il y a simplement « je vous ai compris ». Bon, moi je dis, il y a aussi ce que Bernard, tu as dit tout à l'heure, il y a aussi ces déclarations, 55 millions de Français de Dunkerque à Tamanrasset. Moi j'y ai cru totalement que les habitants de l'Algérie étaient des habitants de la France, comme les Auvergnats, comme les Bretons, comme les Corses, comme nos provinces, disons, périphériques, comme les Basques, comme les Corses, comme les Savoyards. Les Savoyards n'étaient français depuis pas très longtemps. J'y ai cru à 150%. J'y ai cru totalement. Et ensuite, parce que j'y ai cru, après avoir lutté contre les félagas, j'ai lutté contre les complices des félagas. Ça me paraissait d'une logique absolue. Alors évidemment, la logique de nos jours, où tous nos gouvernants marchent sur la tête, évidemment, la logique.
Alors, je crois, hélas, que maintenant, il faut juger de se passer à l'aune du présent, parce que on voit les résultats. Et nous sommes confrontés aujourd'hui donc à cette histoire de l'Algérie. Nous n'évoquons pas que le passé, puisque M. Bouteflika donc fait le présent aujourd'hui en demandant notre repentance, en injuriant la France, au mépris de ce que Jean-Paul Leperlier, de ce que Louis de Condé ont dit. Mais voilà aujourd'hui, l'Algérie pouvait être française, probablement. Les Algériens pouvaient être intégrés intelligemment, à condition de comprendre aussi. La parole essentielle du père de Foucault, ces peuples seront chrétiens ou nous chasserons. Là, c'est le véritable débat. Et je pense qu'hélas, la République la France en général, au-delà de ces régimes, n'a pas mené une politique algérienne cohérente. Et nous voilà aujourd'hui confrontés à l'islam. Jean-Marie Le Pen avait dit à la Chambre des députés, vous ne voulez pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Voilà. Aujourd'hui, le Conseil français du culte musulman, quel mensonge, monsieur Sarkozy. Deux mensonges en quatre mots, parce qu'il n'y a pas de culte dans l'islam sunnite, tout au moins. Il n'y a pas de clergé français. Je lis les commentaires du journal Le Monde, je ne vais pas vous en abreuver, sur les résultats des élections de ce Conseil français du culte musulman. Eh bien voilà, ça se partage entre élus du Maroc, élus de la Turquie, élus de l'Algérie. C'est donc une compétition au sein de la communauté musulmane dite française par les nations qui prétendent avoir un droit de regard sur les affaires intérieures de notre pays désormais, comme on l'a vu à Perpignan, que j'ai commenté lors de la dernière émission. Richard Haddad, vous êtes un spécialiste de l'islam, vous vous y intéressez, et en tout cas, par vos origines libanaises, vous avez l'expérience séculaire de la dernière, il faut bien le dire, communauté chrétienne encore un peu libre dans l'immense mer islamique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cela?
Alors moi j'ai quelques répliques de la semaine, si on peut dire ça comme ça, suite aux attentats de Londres. Alors, dès qu'il y a ce genre d'événement malheureux, on a des émissions à longueur de journée sur les radios, à la télévision, où des spécialistes et des pseudo-spécialistes viennent expliquer les choses. Alors on voit de tout, il y a des gens qui parlent bien, il y en a d'autres qui disent du n'importe quoi, mais en tout cas, ce qui est unanime, c'est de répéter que tout cela ne représente qu'une micro-minorité. Alors j'entends comme ça dire la grande majorité des musulmans dans le monde, s'il vous plaît, pas seulement en Europe, sont tous des modérés qui sont absolument contre toutes sortes d'attentats et d'attaques violentes contre qui que ce soit. Alors, tout de même, alors je veux bien qu'il y ait des musulmans effectivement modérés qui soient contre ce genre d'actes, mais enfin, grande majorité, je ne la vois pas, qu'elle soit... Alors, moi, je me fonde sur quelque chose de concret, c'est-à-dire que il se trouve que juste avant ces attentats de Londres, pour répliquer à ce genre d'affirmation, il y a eu un débat en Angleterre, un sondage en Angleterre, auprès des populations musulmanes qui leur posaient la question suivante. Trouvez-vous légitime que des groupes attaquent les États-Unis et l'Angleterre suite à leur engagement en Irak? Eh bien, 15%... c'est pas moi qui le dis, c'est le sondage britannique. 15% des musulmans vivant en Angleterre trouvent légitime que l'on attaque par attentat ou autre méthode les États-Unis et l'Angleterre et l'Occident de façon générale. 15%, ce n'est pas rien. Ça fait déjà en Angleterre 200 000 personnes. Dans le monde arabo-islamique, c'est encore pire, parce que là aussi, on dit les masses islamiques sont toutes modérées, ce n'est qu'une micro-minorité, l'Al-Qaïda, ce n'est rien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai voyagé dans le monde arabe, j'ai été dans des pays musulmans arabes ou non-arabes, je n'ai pas vu cette grande majorité, je la cherche toujours. Alors, effectivement, j'en ai vu, ça existe, bien sûr qu'il y a des musulmans modérés, etc. Mais enfin, en faire une grande majorité, moi, ce qu'on appelle la rue arabe ou la rue musulmane, alors, c'est peut-être péjoratif de dire la rue, mais bon, c'est un fait. Quand on interroge les gens, Bernard d'ailleurs en est témoin, parce qu'il va au Liban, il va voir des chiites du Hezbollah dans le sud du Liban, dans la plaine de la Beka, où il essaie d'engager le dialogue, eh bien, de plusieurs façons, ils essaient de légitimer. Alors, quand ça peut être assez brutal de dire oui, non, mais il faut poser des bombes, il faut conquérir, etc. Et puis parfois, ça, c'est plus vicieux. C'est-à-dire, effectivement, nous regrettons ce genre d'actes, mais il faut les comprendre. Oui, il y a une certaine. Et là, c'est là que l'affaire la plus choquante, c'est lorsqu'on voit des spécialistes chercheurs au CNRS, d'origine musulmanes qui viennent nous dire sur des plateaux de télévision que, bien sûr, ils condamnent, mais qu'ils peuvent comprendre que c'est un acte politique de résistance. On entend ça sur des chaînes de télévision. On dit oui, mais effectivement, nous condamnons, mais il faut savoir que c'est tout simplement un acte de résistance que de poser des bombes dans des métros. Et on entend ça sur des... Personne ne les condamne, cela. Voilà cette première réplique. Alors, peut-être aussi... on reçoit des questions au centre Charlier, des gens qui nous écrivent. Pour s'interroger. Alors, la France est menacée par le terrorisme islamique, oui ou non? Sa non-participation à la guerre du Golfe la met-elle à l'abri? Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Moi, je pense que non. Certains disent que oui. Alors, on dit partout que la France jouit d'un capital de sympathie dans le monde arabo-islamique. ça aussi c'est un débat, hein, c'est le capital sympathie. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une réplique. Et les terroristes islamiques sont-ils des fous aveuglés, complètement intégristes aveuglés, ou sont-ils plutôt des gens calculateurs et qui ont un objectif bien défini? Ça, ce sont les questions que les gens se posent, ne savent pas trop. D'autre part, on nous dit à chaque fois qu'il y a un attentat que Al-Qaïda, les islamistes sont vaincus, c'est leur dernier combat, etc. Et puis quelques mois plus tard, hop, on voit plusieurs bombes exploser le même jour. Alors, qu'en est-il? L'islamisme est-il vaincu et ce sont ses derniers combats, ou est-il en train de se renforcer? Voilà les questions que nous posent beaucoup d'auditeurs.
Très bien. Je pense que nous reviendrons sur la question de l'actualité islamique. Je suis très sensible à à l'accueil que je reçois dans le journal de la LITRA. Oui. Alors,
Je peux lire. Pardon.
Oui, j'en profite un tout petit peu, parce que avec étonnement, j'ai lu Le Droit de Vivre. Le Droit de Vivre, c'est le journal de la LITRA.
Parfait, le droit de lire Le Droit de Vivre.
Et donc,
le droit de lire.
J'ai lu ceci. Indiscutablement, une partie du discours de l'extrême droite se fonde sur des réalités concrètes. Merci, messieurs de la LITRA. Encore que nous ne nous reconnaissions pas du tout dans le qualificatif d'extrême droite. Certains de ces responsables ont d'ailleurs une connaissance approfondie de la religion musulmane. À titre d'exemple, nous pouvons citer Bernard Anthony, élu Front National, ça c'était hier, et fondateur des comités chrétiens de solidarité, et de développer nos interventions sur le sujet. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous n'épuiserons pas ce soir le débat sur l'islam, mais il faudra y venir. Et nous consacrerons, si Serge de Becquet le veut bien, une émission spéciale, parce que je crois que nous n'avons pas encore commencé bien réellement la réflexion sur le sujet, sur ce défi du 21e siècle. Nous avions eu auprès de nous, Louis Condé, Perlier, un grand homme. Quand je dis auprès de nous, c'était au bureau politique du Front National, vous vous en souvenez, il était votre ami, Georges Malbaner, c'était Jules Monneau. Jules Monneau, c'était une magnifique intelligence qui disait au siècle dernier le communisme et l'islam du 20e siècle. Aujourd'hui, Jules Monneau dirait l'islam, c'est le communisme du 21e siècle. Et le tragique, chers auditeurs, c'est qu'on n'a pas commencé encore à comprendre comment nous devions considérer ce phénomène. Aucun parti politique ne consacre de réflexion. Je n'ai lu aucune brochure sur le sujet. Je crois que nous avons, avec Reconquête, avancé avec nos colloques, avec notre réflexion. Et nous avancerons de ce côté-là, parce que lorsque j'apprends que des syndicats CFTC, je dis bien CFTC, je le révèle ici, à Roissy par exemple, à Orly, sont pénétrés par des réseaux islamistes, je ne dis pas musulmans, il y a un distinguo qui vaut ce qui vaut, je ne le fais pas mien, mais tout de même, on entendra par là, donc des réseaux de musulmans plus fanatiques que ceux qui vont tout simplement à la mosquée le vendredi. Lorsque j'apprends que certains services de sécurité, et je n'en dirai pas plus ici, donc dans des industries importantes, sont pénétrés par des islamistes, ils sont surveillés, Dieu merci, il y a encore, je l'espère, une police dans ce pays. Donc il faut prendre ce phénomène-là, et le scandale, voyez-vous, c'est que les hommes politiques, pas plus qu'ils n'avaient lu au siècle dernier Mein Kampf ou Lénine, n'ont lu par exemple le Coran. Et que, pour ce qui est du Coran, il y a des mensonges qui sont ceux des sourates que l'on utilise en les extirpant du contexte et en disant, voyez, ces sourates de la tolérance. Ce que l'on oublie, c'est qu'il y a aussi les sourates de l'intolérance. Et que pour un musulman, tout musulman qui a appris le Coran d'une manière élémentaire, sait qu'il y a les versets abrogeants et les versets abrogés. Les sourates où l'on peut trouver un peu de tolérance, attention, la tolérance c'est ne pas tuer. Non, les athées, il faut les tuer. Mais les polythéistes, on peut les laisser vivre. Ça, ce sont les soi-disant sourates de la tolérance. Mais ce sont les versets abrogés. Par des versets abrogeants, qui sont brutaux, c'est la différence entre les sourates de Médine et de la Mecque. Voilà la réponse, et aucun auditeur, je pense, sur ce plan-là, ne me contredira. J'ai le Coran à disposition, je travaille avec celui de la Pléiade, c'est une collection prestigieuse, c'est estampillé par Al-Azhar, et ce débat, nous voulons l'avoir. Un jour, je demanderai...
Oui, mais est-ce qu'il est possible, Bernard?
Faut pas oublier non plus, c'est ça que vous dites, il n'y a pas de débat. C'est que le débat est interdit. N'oubliez pas la loi Pleven, n'oubliez pas la loi Guesso, n'oubliez pas qu'il est interdit d'instaurer officiellement certains débats qui établissent une discrimination entre les ethnies, les races et les religions. N'est-ce pas? Et par conséquent, c'est vrai, vous avez raison. J'ai admiré votre lecture et j'ai entendu avec plaisir votre lecture du bulletin de la LICRA. Enfin, j'ai gardé le souvenir de 20 ans ou de 30 ans de combat contre des avocats de la LICRA, intervenant comme partie civile contre ceux de mes clients qui étaient poursuivis, précisément parce que ils avaient pris la parole sur ces sujets-là, qu'ils avaient averti à l'avance, et à cette époque, la LICRA ne parlait pas comme elle parle aujourd'hui, parce qu'elle est instruite sans doute par certaines expériences et qu'elle est par conséquent, à travers ces expériences, accessible à certaines vérités. Mais je pense que pour commencer peut-être une restauration de l'esprit public, il faudrait commencer par abolir ces deux lois. D'abord parce qu'elles nous interdisent de voir ce qui est la vérité, qu'elle poursuive la vérité quand on l'a dit, et deuxièmement, parce qu'elle désigne officiellement, en vertu de décisions de justice, les Français, les Européens en général, elle les désigne comme des racistes, c'est-à-dire comme des gens qu'il faut abattre et qu'il faut persécuter, et qui par conséquent justifie indirectement le terrorisme dont nous nous plaignons par ailleurs, parce que là aussi on va venir dire il faut comprendre comme vous le disiez, il faut comprendre leur réaction, parce que la justice de tous les pays et notamment la justice française leur enseigne tous les jours par des décisions qu'il y a un certain nombre de Français en France et la plupart des Français en France qui sont en réalité responsables d'un certain nombre de crimes, d'un certain nombre de faits qui remontent loin dans le temps, l'esclavage, etc. Et par conséquent, qu'il est juste un jour ou l'autre de leur faire subir le châtiment mérité.
Et les faits sont têtus, messieurs de la LICRA, vous avez voulu les causes,
voilà.
Vous avez
alors,
les conséquences.
Tant mieux, ils parlent mieux aujourd'hui, ils ont compris un certain nombre de choses.
Pas toutes,
mais
loin de là.
Je crois qu'ils ont encore beaucoup à apprendre.
Alors, est-ce que vous pensez, Georges-Paul Wadner, que M. Sarkozy a raison lorsqu'il déclare que l'on ne résout pas les problèmes avec les idées d'il y a 50 ans?
Oui, je sais pas à quelles idées il pense exactement. Moi, j'ai des idées qui remontent à beaucoup plus que ça, si vous voulez. Elles remontent jusqu'à 1789, et non pas, comme je suis très modérément républicain, pour approuver 1789, mais au contraire, pour le déplorer, je crois que c'est la circonstance, puisque nous sommes à la veille du 14 juillet. 14 juillet, on fait des fêtes, on fête ce qui s'est produit ce jour-là, qui est un jour sanglant quand même, qui est un jour, si vous voulez, qui a vu le massacre du gouverneur de la Bastille, accompagné d'un certain nombre de ses soldats, suivi deux jours après du massacre du prévôt des marchands, dans des conditions d'ailleurs horribles, horribles aussi, qui rappellent un certain nombre de choses que vous disiez tout à l'heure sur les supplices infligés par les musulmans. L'horreur, hélas, elle est dans la rue au moment de toutes les révolutions. Et alors, nous avons, si vous voulez, ceci, c'est le 14 juillet 1789, c'est la conséquence du 17 juin. Le 17 juin 1789, c'est le jour où les États généraux se sont transformés en assemblée constituante. C'est-à-dire où, au lieu de voter par ordre, on a commencé par voter par tête. Un mois après, on votait par tête au bout des pics. Et ça a continué pendant la Révolution, pendant le reste, ça s'est aggravé d'année en année. Et je dirais, ça continue, si vous voulez, parce que je pense que c'est instauré à partir de là un désordre qui est particulièrement sensible en France, en ce sens que il n'y a plus, tout le monde le dit, tout le monde le constate et même l'écrit, il n'y a plus de légitimité du pouvoir. Le pouvoir a été détruit, a été renversé, et il n'a pas réussi depuis cette date, malgré 20 constitutions, à reconstituer une base solide du gouvernement et de la légitimité. Alors, excusez-moi de ce couplet anti-républicain,
mais en me posant
la question que vous m'avez posée, je pense que vous vous y attendiez.
C'est-à-dire que je m'attendais effectivement brièvement à ce que vous répliquiez, mais je vais le faire, enfin je m'attendais à cela, oui. Vous l'avez excellemment fait, mais je voudrais dire à M. Sarkozy, s'il ne croit plus aux idées d'il y a 50 ans, est-ce qu'il ne croirait plus par hasard aux idées d'il y a 219 ans, oui. C'est-à-dire aux idées de la Révolution française?
Vous savez, il y a quand même quelque chose de très notable. On parle beaucoup de la nuit du 4 août, la fameuse nuit du 4 août qui, dit-on, a aboli tous les privilèges. Les privilèges, il faut le savoir, qui n'étaient pas seulement et surtout les privilèges de particuliers, les privilèges des provinces, les privilèges des villes, les privilèges des corporations. Tout ceci a été aboli dans une nuit. Et depuis deux siècles, notre gouvernement, avec hypocrisie, nos gouvernements successifs, avec hypocrisie, ont tout de même essayé toujours de reprendre un peu ce qui avait été défait cette nuit-là, c'est-à-dire de recréer, par la décentralisation, le traitement, le statut particulier de ce qui est particulier. C'est ça, les privilèges. Les privilèges, ce sont des lois spéciales pour des statuts spéciaux.
Serge de Becquet, je veux intervenir.
Vous pouvez relire la phrase exacte de Sarkozy, parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Ça me paraît un événement politique tout à fait considérable.
Mais oui, c'est pour cela, voyez-vous. Alors, j'ai tellement de coupures de journaux, Serge, mais je peux vous la dire. Je vais essayer de la retrouver, mais autrement,
de mémoire. On ne résout pas le problème d'aujourd'hui avec
des idées d'il y a 50 ans.
Voilà, écoutez bien. Moi, je suis, comme on a pu en juger depuis longtemps, je suis un peu bête.
Voilà, Serge, voilà la citation exacte. Elle est du journal Le Monde du 12 juillet. Peut-on résoudre les problèmes de 2005 avec les idées d'il y a 50 ans?
Donc, voilà, 2005, peut-on résoudre les problèmes avec les idées d'il y a 50 ans? Alors, moi, je l'applique à un système qui est encore connu de quelques élèves du primaire, c'est la soustraction, 2005-50, 55. On est donc, il parle des idées de juillet 55. Alors, j'étais un tout petit garçon, j'avais 9 ans à l'époque, mais je crois me souvenir qu'on commençait à, on continuait à parler d'un certain général de Gaulle qui avait plein d'idées pour tout arranger en France et qui était en train de mettre en place les structures qui allaient le conduire au pouvoir pour régler ses problèmes. Autrement dit, ce qui me paraît très intéressant dans la déclaration de Sarkozy, c'est qu'il explique que les idées de Gaulle sont obsolètes.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, c'est vraiment, je crois que c'est un événement considérable. Parce qu'un ministre du gouvernement, oui.
Est-ce que je peux les rappeler ces idées de Gaulle, celle-là, cette,
oui.
Parce que j'ai là, d'après le livre de Perfit sur de Gaulle, quelques idées de Gaulle qui sont amusantes. Alors là-dessus, la Troisième République qui prétendait nier les différences entre les races et les religions et qui considérait qu'il n'y avait qu'une civilisation, la sienne, a donné libre cours à la chimère de l'assimilation. Il suffit de passer quelque temps en Algérie pour se rendre compte comme le peuple arabe est inassimilable. Alors ça, c'était les fameuses idées d'il y a 50 ans.
Voilà. Alors,
celles
alors,
de général
Sarkozy
de Gaulle.
Il n'est pas d'accord avec ces idées-là, donc il est d'accord avec le fait que le peuple arabe est assimilable.
Ah ben, il pense que oui, il pense que...
Et il fait tout.
Maintenant qu'ils sont en France, ce n'est plus la même chose, en fait.
Il est même...
Mais c'est vraiment intéressant, je crois. Il y a un événement politique considérable, c'est que il y a un ministre, et pas n'importe quel ministre, de Chirac, qui vient de rompre avec le gaullisme de façon officielle, en disant les idées du général de Gaulle sont complètement obsolètes et il faut les jeter dans les poubelles de l'histoire.
Mais je crois que pour nous, qui sommes des hommes plus sages, nous avons sur la question des idées une doctrine autrement fondée que celle de M. Sarkozy. Nous savons qu'il y a des idées vraies et qu'il y a des idées fausses. Et que les idées fausses d'il y a 50 ans, nous les payons aujourd'hui, effectivement. Mais je crains que M. Sarkozy n'ait pas d'idées vraies aujourd'hui.
Mais peut-être qu'il en a pour aller encore plus loin. Parce que qui est-ce qui veut faire, excuse-moi, la discrimination positive, qui est véritablement le crime par excellence. Aucun gouvernement de gauche n'est allé aussi loin. Il s'agit de donner plus de droits aux étrangers qu'aux Français dans leur pays. Il s'agit de nous désassimiler, nous, dans notre propre peuple.
Vous savez qu'il dit même quelque chose qui est punissable, hein, parce que la discrimination positive étant une discrimination, elle est en contradiction complète avec l'article 1er de la loi Guesso.
Oui, mais je crois que la griffe est en permanence confrontée à ce genre de discrimination.
Quelques questions arrivent, si vous le permettez. permettez, nous allons en prendre quelques-unes, encore que nous avions quelques autres questions enregistrées, mais en voilà une que je ne veux pas laisser passer. Comparer le communisme et l'islam est d'un simplisme aberrant. Ce sont deux concepts différents. Ne prenez pas les auditeurs pour des imbéciles. Non, pardonnez-moi, cher monsieur, c'est vous qui n'avez pas tout à fait compris ce que nous disions, ou ce que disait Jules Monnereau, qui n'était pas un imbécile, c'était le plus grand sociologue français, sociologie du communisme, sociologie de la révolution, vient d'être, il y avait analogie, il n'a pas dit que c'était la même chose, ou a-t-on dit que c'était des concepts semblables. Dans un cas, mais si vous étudiez le communisme, vous en étudierez le totalitarisme, et vous voyez que l'islam est aussi un totalitarisme, que le communisme a une dimension religieuse, de même que l'islam a une dimension essentiellement politique et sociale, parce que le prophète Mohammed est à la fois chef de guerre, il est à la fois, et que dans tous les livres islamiques que j'ai pu lire, on rappelle que dans l'islam, il y a indissociabilité entre la politique, la religion et la culture, c'est le propre du communisme tout autant.
La législation.
Et la législation. Ouais. Alors, je pense qu'on ne prend pas les auditeurs pour des imbéciles, mais monsieur, nous ne vous appliquerons pas ce qualificatif, nous nous contenterons d'observer que vous nous avez mal compris. Une question aussi qui nous parvient, elle a trait à la suite du nom. Ne pensez-vous tout de même pas que le nom dont vous vous félicitez, ça c'est tout à fait Elsa, a mis un coup d'arrêt définitif à la tentative d'intégration de la Turquie dans l'Union européenne? Alors je réponds là non. Hélas. D'abord, je ne suis pas un admirateur de l'Union européenne et je précise que pour nous, nous avons une autre conception de l'Europe ici que celle de l'Union européenne dont nous savons tous les vices par ailleurs. Mais il suffit de lire un article, puisque nous faisons des recensions du Figaro d'il y a quelques jours. Bruxelles garde le cap avec Ankara. C'est-à-dire que cette Europe-là méprise complètement la démocratie et que, justement, ce dont les Français doivent s'apercevoir, c'est que la pseudo-démocratie, la démocratie est une secrète religion, en définitive, le suffrage n'est qu'un alibi, que lorsqu'il est conforme aux secrètes machinations, on le prend, et quand le suffrage ne va pas dans le droit fil de ces secrètes machinations, eh bien, on continue tout de même. Et c'est ainsi que, eh bien, à l'Europe, l'exécutif européen a approuvé le document d'ouverture des négociations d'adhésion avec Ankara le 3 octobre prochain. C'est-à-dire que l'on a continué. La France vient d'intervenir en coulisses à Bruxelles pour empêcher tout durcissement du document de la Commission à l'égard de la Turquie. Et je pourrais développer, nous développerons cela dans une autre émission avec éventuellement un de nos amis au Parlement européen. Les négociations continuent. Et pourquoi continuent-elles? Je vous voudrais éclairer ici ce qui n'a pas été dit peut-être suffisamment pendant la campagne électorale, parce que la Turquie se défausse sur nous d'un de ses problèmes essentiels, qui est la guerre civile qu'elle mène avec ses Kurdes. Le projet turc à l'égard de l'Europe, c'est très exactement le projet israélien à l'égard du Liban. De la même façon que les Israéliens ont expulsé les Palestiniens, notamment au Liban, de la même façon, la Turquie expulse les Kurdes à destination de l'Europe, parce que les Turcs que nous avons chez nous sont essentiellement des Kurdes. Et cela, pourquoi? Parce que ça, ce sont les secrètes directives de la politique mondiale. Nous y reviendrons, parce que cela mérite d'être éclairé. Je pense que l'heure tourne, et Serge me fait signe, et puis d'autres questions arrivent.
Non, c'est sur l'horaire.
Ah, voilà. Donc, merci. Autre question. Ensuite, la Gay Pride, il n'y a que vous à être choqué. Ouais, j'ai reçu cela. Ben oui, comme toi, il y a toutes sortes d'auditeurs à Radio Courtoisie. Et puis, il faut l'égalité. Je pense que l'on fait allusion et l'on m'a envoyé une coupure d'un journal que je ne lis pas, qui paraît le dimanche. Voilà. Alors, effectivement, cette page de ce journal qui paraît le dimanche, mais pas pour célébrer le jour du Seigneur, nous invite à adhérer à cette époque où ces images ne choqueront plus.
Les mêmes qui se plaignent d'être ridiculisés.
Exactement.
D'être discriminés. Se charge dans cette guéprade d'être ridicule et au fond d'être un peu comme des clowns, si je puis dire, sur leur charge, et par conséquent de justifier précisément ce contre quoi ils s'élèvent. Alors je veux bien que ce ne soit pas exactement les mêmes qui montent sur des chars et puis ceux qui se plaignent, mais il y a là quand même un défaut de logique qui me paraît devoir être signalé.
Il y a un défaut de logique, si je peux me permettre, Bernard. Il y a un défaut de logique fondamental dans l'argumentation qui veut bannir toute manifestation, même pas d'hostilité, mais simplement de refus,
refus
de l'exhibitionnisme homosexuel. On nous dit l'homosexualité est un comportement normal. Et vous finirez par vous y rendre, vous finirez par l'admettre, parce que c'est l'avenir. Si vous voulez être moderne, il faudra accepter toutes les sexualités. Premier argument. Deuxième argument, d'ailleurs, dans la Grèce antique, c'était parfaitement accepté. Alors on nous dit à la fois que c'est l'avenir, que c'est très moderne, et comme argument à l'appui de cette modernité, on nous cite des populations de l'Antiquité. Donc c'est clair qu'on joue sur tous les tableaux et qu'on dit n'importe quoi, et qu'il s'agit d'un projet de dissolution de l'ordre social.
Et alors, lorsque je lis cette coupure, la revendication de l'égalité maintenant, mais de qui se moque-t-on? Parce que s'ils veulent être égaux, ben, il faut qu'ils se marient comme tout le monde et qu'ils aient des enfants. Parce qu'enfin, est-ce que c'est comment se peut-on que l'on puisse revendiquer l'égalité et en même temps imposer à des enfants d'être élevés de la manière la plus inégalitaire qui soit, la plus différente qui soit, de celle de tous les autres enfants. Parce que les enfants sont élevés par un papa et une maman, et au nom de l'égalité, ils revendiquent donc que des enfants soient élevés par un couple homosexuel. Voilà, et évidemment, je pense que les auditeurs de
la Grèce antique, qui leur sert de modèle, n'a jamais modifié en quoi que ce soit sa législation sur le mariage. Les Romains non plus, d'ailleurs. Ils ont toujours maintenu les législations qui étaient les législations classiques et traditionnelles, le mariage entre deux personnes de sexe différent.
Chers auditeurs, merci. Je crois que l'heure est venue de la lecture des annonces de fin d'émission. Nous allons nous retrouver le 24 août pour la même émission. Nous aurons d'autres invités. Je rappelle tout simplement les universités d'Orange 28, 29, 30 et 31 avril. Notre rendez-vous...
Août.
Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Et notre rendez-vous le 18 septembre à Villepreux. Nous disons au revoir et c'est la fin de l'émission pour respecter l'horaire que vous nous demandez.
Dites au revoir à vos auditeurs et faites-leur un souhait pour la semaine.
Un souhait pour la semaine à nos auditeurs, eh bien, c'est de devenir toujours plus combatifs, parce que entre leurs mains repose en grande partie l'avenir de ce pays. Je suis sûr que Radio Courtoisie constitue une sphère importante de ce que j'appelle le pays libre. Voyez-vous, un grand philosophe politique français distinguer le pays réel et le pays légal. Mais aujourd'hui, la distinction n'est pas différente, c'est le pays libre et le pays occupé. Nous sommes le pays libre.
Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 14, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Claudio.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associée.